Vous écoutez
RMC. RMC, 18h20.
Tim Dugas.
Jean-Louis Tour.
Christophe Dugarry.
Bonsoir à tous les amis, 18h03, ravi de vous accueillir. Vous êtes dans Team Dugas, ça y est, c'est jusqu'à 20h, nous allons nous régaler à débattre, à parler football. Une grosse, très très grosse actualité, une nouvelle fois dans le football. Nous accueillons Coach Courbis pour en parler avec nous. Bonsoir Roland, comment vas-tu ?
Salut à tous, ben ça va, écoute.
Bon, bienvenue mon
Roland.
Moi
aussi j'écoute toutes les nouveaux. Ah ouais,
c'est fou.
Là.
Moi, il y a deux matchs, plus il y a d'actualité. C'est fou quand même. Ça s'arrête jamais ce football. C'est un puits sans fond. Jean-Louis Tour est avec nous également. Bonsoir, mon Jean-Louis.
Salut, Dugas. Salut, tout le monde.
Ça va, l'ami ?
Bah oui, très bien. Écoute, hein. Effectivement, gros programme avec des grosses infos
oui.
RMC Sport.
Des surprises, des vraies surprises. Il y en a qui se lâchent.
C'est ça.
Et moi, le premier.
Oui, bon, on va y revenir. Et avec nous ?
Francky Le Bœuf est avec nous aussi également. Oui. Bonsoir mon Francky.
Bonsoir.
Comment ça va, mon poulet ?
Bonsoir tout le monde. Ben, ça va très très bien. Toujours très heureux d'être là.
Bon, magnifique.
On avait oublié son petit Francky là ?
Si, j'avais oublié. J'étais parti sur autre chose pour tout te dire.
Écoute,
alors très bien.
Je t'en veux pas.
On y va.
Je voulais garder le meilleur pour la fin, puis j'ai tellement gardé que je l'ai oublié.
Ça arrive souvent. On y va donc pour Team Dugas avec, messieurs, un règlement de compte à Gaston Gérard à 19h. Gaston Gérard, c'est le stade de Dijon où Grégory Coupé s'est expliqué quant à son départ de l'Olympique Lyonnais. Il n'a pas été tendre avec son club historique. L'OL s'est-il mal comporté dans cette affaire ? Le débat à 19h. À 19h30, le débat historique de Team Dugas aujourd'hui. Mitroglou, Dugas. Temps t'a donné raison sur Mitroglou. On y reviendra. Il nous a beaucoup fait parler à son arrivée à Marseille.
Ouais.
Et on y reviendra tout à l'heure à 19h30. On va aussi parler de Nice tout à l'heure. Peut-être le modèle à suivre. Et puis, l'affiche du soir en Angleterre, c'est Manchester City, Liverpool. On va y revenir également dans un instant. Mais d'abord, Dugas, on va revenir sur ce qui s'est passé hier dans notre débat autour des difficultés d'Antoine Griezmann pour s'imposer au Barça, un club où Lionel Messi contrôle tout. Ce débat a été animé, comme souvent, dans Team Dugas. Et tu as eu une parole que tu regrettes.
Oui, effectivement, sur les autistes notamment, où j'ai dit que Lionel Messi était à moitié autiste, à aucun moment je n'ai voulu stigmatiser ni me moquer des personnes souffrantes de ces troubles autistiques. C'était pas mon intention, donc c'est pour ça que je voulais présenter mes excuses à ceux que ça a pu heurter. Après, pour être totalement franc aussi, s'il y a des gens que ça a choqué, je leur présente mes excuses, c'est normal, parce que mes intentions n'étaient pas là de les blesser, mais je vois pas en quoi ce que j'ai pu dire non plus est si grave que ça. Enfin, surtout, à quel moment j'ai pu me moquer ou insulter les gens autistes dans les propos que j'ai pu tenir quand je dis que Messi est à moitié autiste. Ça veut dire tout simplement que c'est un garçon très réservé, qui est souvent isolé, pas toujours concerné.
Oui, mais voilà, tu aurais pu le dire comme ça, en fait.
J'aurais pu utiliser
le mot autiste, qui peut être vexant pour des gens malades ou des familles qui ont des enfants malades touchés par cette
maladie.
D'accord,
mais après, je vois pas en quoi aussi, mon Jean-Louis, ça peut être vexant. Alors, à la preuve que si, parce que ça a touché des gens.
On peut dire aussi, quand malheureusement tu es autiste, que c'est quand même une difficulté, même si aujourd'hui j'en ai connu, moi je le trouve très très bien. Tu peux te dire aussi que tu peux être autiste et être Messi, donc ça ne t'empêche pas d'être le meilleur footballeur du monde. Donc ça dépend dans quel sens on le prend. Alors, c'est vrai que je comprends aussi que ça puisse vexer, mais bon, on est dans une période aussi que si malheureusement on fait un petit écart de langage, je peux te dire que il y a beaucoup de gens parfaits que nous ne sommes pas, donc voilà. Donc il y a un écart de langage
que
personnes auraient pu faire sans pour autant atteindre les autistes.
Ça a été beaucoup repris. Là, tu t'excuses pour ce mot employé.
Je trouve ça assez incroyable des proportions que les choses ont pu prendre sur. On est là aussi pour caricaturer par moment dans l'humour parfois aller un peu loin. Enfin voilà.
Oui, Dugas, ça permet peut-être d'enchaîner parce que pour moi il y a deux raisons pour lesquelles tout ça a été repris. Il y a effectivement l'emploi du mot autiste, on s'est excusé, tu viens de le faire à l'instant, et il y a autre chose quand même, c'est ce que tu dis sur le fond concernant Lionel Messi. On peut peut-être prendre une minute pour que tu reprécises ta pensée, parce qu'évidemment c'est surtout sur les réseaux sociaux que c'est parti dans tous les sens, notamment en reprenant cette petite phrase où en fait dans notre débat hier tu as invité Griezmann à prendre son courage en main, à se bouger et aller demander des comptes à Lionel Messi. C'était surtout ça, ton point de vue.
Oui, oui, ben oui, c'était ça. En gros, c'était, il fait pas 1m90, c'est pas une grande gueule, c'est pas un mec. Enfin voilà, au bout d'un moment, c'est à toi d'aller régler tes problèmes quand t'as un problème avec un garçon, que ce soit Messi, Pierre, Paul ou Jacques. Au bout d'un moment, il faut savoir se
prendre en main. Ça fait partie du haut niveau des grands clubs.
Ça fait partie quand voilà. Y en a un qui te crée des problèmes, d'y aller. Après, je te dis sur Messi, bon, dire qu'il fait 1m50, excuse-moi, c'est il fait 1m60. Voilà, c'est une expression. C'est un garçon qui est parfois peu très. Enfin, qui est très réservé, qui est souvent isolé, pas toujours concerné, voilà, qui a parfois des attitudes un peu d'enfant gâté. Voilà, je vois pas ce que j'ai dit.
Oui, ça n'enlève rien à ses qualités de footballeur.
Exactement, on adore tous ce Messi, on adore tous, c'est un joueur exceptionnel, mais il y a des moments, Messi, comme les autres, il a des attitudes et des comportements qu'il a eu avec certains de ses coéquipiers qui méritent d'être condamnés, d'être parfois même stigmatisés. C'est comme ça, enfin, je trouve que ça a pris des proportions, sincèrement. Je sais pas si c'est moi qui est choqué des gens, ou si qui suis le plus choqué de voir
la disproportion.
Ouais. Non, mais la disproportion Alors, sur des trucs comme ça.
Ce que je vous propose, c'est qu'on n'aille pas plus loin sur ce dossier. Les excuses ont été présentées. T'as précisé ta pensée sur le dossier. On va pas aller plus loin. On va enchaîner avec ce qui fait vraiment Team Duga, les infos, le débat, et vous au 32-16, on va vous donner la parole sur tous les sujets qu'on a à aborder. Avant City Liverpool, une info RMC Sport. Mohamed Bouassi nous rejoint. Bonsoir Mohamed.
Salut Roland. Salut Jean-Louis. Salut Francky.
Salut Mohamed.
Ça se précise. À Bordeaux, ça bouge, notamment concernant l'entraîneur Paulo Sousa.
Oui, c'est une information RMC Sport. Il y a quelques heures, Paulo Sousa a annoncé son départ à ses joueurs. Il a souhaité échanger avec tout l'effectif des Girondins de Bordeaux en expliquant qu'il était trop fatigué par ce projet, trop fatigué par les changements de cap, trop fatigué aussi par le fait qu'il ne puisse pas recruter comme il le souhaite et qu'il sent que ça va être une saison réellement galère et qu'il n'a pas envie de participer à cette faiblesse sportive et à la faiblesse de la compétitivité des Girondins de Bordeaux. Donc il a dit à ses joueurs qu'il voulait partir et qu'il allait partir. Il y a des négociations qui vont démarrer entre lui et les Girondins de Bordeaux. Oui,
les mecs qui veulent partir, ils veulent des sous.
Bon, après il va peut-être démissionner entre-temps. Certains commencent à dire aussi qu'il y a Benfica qui s'est libéré au Portugal et que voilà, lui est attaché à ce club. Donc on va voir la situation dans quelques heures. En tout cas, l'information principale et l'information RMC Sport, c'est que Paulo Sousa, l'entraîneur des Girondins, le dernier maillon fort, j'ai envie de dire, du projet sportif, a annoncé son départ aux joueurs.
C'est pas très étonnant vu tout ce qu'on dit autour du club, du gars, depuis quelques semaines.
Rien n'est clair, mon Jean-Louis. Depuis le début que King Street a racheté le club, rien n'est clair dans le projet.
Et j'espère que le plus dur ne soit pas à venir.
Voilà, je veux pas dire tout est fake, mais il y a tellement eu de contre-vérités. Ils devaient arriver avec mettre 80 millions qu'ils ont jamais mis, ils devaient investir. Tout a été fait en dépit du bon sens. On l'a dénoncé ces dernières semaines, ces derniers mois, avec des gens chargés du recrutement ou des entraîneurs qui prenaient des commissions. C'est à l'envers d'un mode de fonctionnement d'un club de football. C'est surréaliste ce qui se passe dans ce club, mais Monsieur Longuepé a dit il y a aucun risque, le club, tout va bien au club. King Street assumera et prendra ses responsabilités. Moi, je te l'ai dit à très court terme, le club va déposer le bilan. Je vois pas comment ils peuvent s'en sortir.
Christophe, est-ce que M. Longuepé n'a pas fait une déclaration hier
On en a parlé hier. Il dit,
en
lui,
disant qu'il n'y a pas de problème.
Les actionnaires ils feront le chèque qu'il faut devant
Ils le feront peut-être dans quelques jours, mais on verra dans plusieurs mois. On verra dans plusieurs mois. Tu verras.
Si on réglait les problèmes simplement en disant il n'y a pas de problème, c'est simple.
Non, mais le problème, c'est qu'à un moment donné, il va falloir se pencher sur ces soi-disant personnes qui viennent pour devenir propriétaire d'un club, qui passe devant une commission, un examen de passage, et où on s'aperçoit qu'en fait, il y a des clopinettes. Donc, à mon avis, où l'examen de passage, il n'est pas assez sérieux.
Comment ça, t'en veux à M6, qui a vendu le club à King Street?
Un petit peu, t'as lâché un petit peu quand même l'affaire, et t'as vendu, et j'en veux pas à M6 spécialement, mais il y a quelqu'un qui s'occupait, qui était à la présidence.
Vendent, c'est pour ça.
Il y a une présidence, il y a quelqu'un qui gère ça, il y a une commission qui gère ça, qui n'a pas fait, pour moi, son boulot, parce qu'elle a donné les clés du camion à quelqu'un qui avait même pas son permis.
On attend quand même avec impatience, parce qu'on est très curieux, puisqu'il y a ce qu'on entend, ce qui est démenti, et on aimerait un petit peu en savoir plus, parce que les Girondins de Bordeaux, c'est pas quand même le petit club français,
ben oui, c'est
quand même, c'est les Girondins de Bordeaux, et il semblerait que la DNCG aura des difficultés pour nous expliquer un petit peu, nous passionnés de football, la situation vraiment des Girondins de Bordeaux. Exactement. Bon, donc là aussi, peut-être que c'est des conneries.
Juste dire aussi qu'on a essayé de joindre le président des Girondins de Bordeaux, Frédéric Longuepé. On lui a donné l'information par message et qu'il est pour l'instant injoignable. Ah. Et donc ça, c'est important de...
Duga, peut-être tu peux lui envoyer un message.
Je crois qu'il va répondre. À Duga, il va répondre.
Ça peut peut-être nous aider.
Bon. Ouais, mais c'est tellement pas étonnant quand tu vois tout ce qui se passe. Encore, on peut bien évidemment que tout peut pas se dire à la radio. On n'a pas le temps, puis on a d'autres sujets à traiter. Mais t'imagines même pas ce qui se passe dans ce club, mon Jean-Louis. Donc, mais non, mais c'est au-delà. Moi, je pensais pas que les choses pouvaient se passer un jour comme ça, déjà dans une entreprise classique et dans un club de football, quoi. C'est surréaliste ce qui est en train de se passer. Pour que le maire demande comme ça ouvertement la tête du président, ça, je crois que c'est du jamais vu non plus. Donc je te promets que c'est très grave ce qui se passe dans ce club, parce qu'après il va y avoir une réaction des joueurs dans pas longtemps, parce que je crois que ça se passait plutôt bien entre les joueurs et l'entraîneur. Il va y avoir une réaction très rapidement des joueurs qui apparemment sont verts de rage aussi. Donc qui va prendre les choses en main, qui va aller parler aux joueurs? Ça va pas être Massia, ça va pas être Longuepée, ça va pas être Thiodé. Alors si, ça va être un de ceux-là, mais avec quel pouvoir, avec quel c'est des gens qu'on n'a même pas envie d'entendre, qu'on n'a même pas envie d'écouter, qu'on sent même pas concerné, qui ont aucun amour pour le club, qui sont pas identifiés club, qui n'ont rien à voir avec le scapulaire. Ils vont te parler quoi? De plaisir, d'amour de maillot, dire aux joueurs qu'il va falloir se défoncer pour le club. Mais eux, ils font tout contre le club, déjà. Donc, t'as un problème, mais qui est profond, très profond dans ce club.
Mais il y a un nouveau logo, quand même, qui est joli.
Ouais. Ah oui, un nouveau logo très important.
Il va falloir suivre aussi la suite pour Eduardo Massia, le directeur sportif des Girondins, lui aussi se poser des questions. Va falloir vite suivre ce dossier. Et tu parlais des joueurs, du gars. J'ai pu échanger avec un joueur ces dernières heures. Je peux te dire qu'ils sont tous très remontés. Ils sont tous dépités. Ils se posent des questions sur leur avenir. Certains réfléchissent même, voilà, à appeler leur agent pour leur dire c'est bon, là il faut vraiment que je parte. Il y a vraiment, vraiment beaucoup d'inquiétude dans l'effectif des Girondins.
Mohamed, tu reviens avec nous à 18h30 pour parler du mercato.
Le terme, c'est pas de partir, c'est de s'échapper.
Oui.
Très bien.
C'est exactement ça.
Passons sur City-Liverpool maintenant. C'est ce soir la passation de pouvoir, puisque Liverpool est officiellement champion d'Angleterre depuis quelques jours et que les deux équipes donc se retrouvent ce soir, 21h15. Ce sera sur RMC avec Jeannot Rességuier qui est avec nous. Salut Jeannot.
Bonsoir tout le monde.
Alors, autour de ce match, on va débattre, notamment autour des deux entraîneurs. Dans la façon d'entraîner, Klopp a-t-il ringardisé Pep Guardiola ces dernières saisons? 32-16, appelez-nous pour en débattre. Jeannot, leur confrontation tourne à l'avantage de l'Allemand.
Oui, après Mourinho et Pochettino, Klopp est le troisième manager que Pep Guardiola a affronté. 18 matchs, 7 victoires pour le Catalan, 2 matchs nuls, 9 victoires pour Klopp, qui est donc celui qui a le plus de victoires face à Pep Guardiola. La rivalité entre les deux remonte à l'époque de la Bundesliga. Guardiola au Bayern, Klopp à Dortmund. 8 victoires, là c'est à égalité. 4 pour Klopp, 4 pour Guardiola. Et en Angleterre, 10 victoires au total. Klopp 5, Guardiola 3, et il y a 2 matchs nuls. C'est au niveau de la première ligue notamment que Klopp s'est installé, avec une victoire lors de la saison 2016-2017 à domicile, pareil en 2017-2018, puis une victoire également à City en Ligue des Champions, où là il avait marqué déjà un petit peu son territoire, l'Allemand. Et puis la saison passée, match nul à Liverpool et victoire de City, et on s'était dit à ce moment-là que Guardiola avait réussi à trouver la clé face à Klopp. Entre temps, il y a eu la victoire en Ligue des Champions pour Liverpool et la Supercoupe UEFA, le titre de champion de Première Ligue cette saison. Et bien c'est la première fois que tout simplement Jürgen Klopp est champion face à Guardiola, entraîneur d'une équipe d'un même championnat. Pour finir, Guardiola est resté fidèle à ses principes de jeu, avec le ballon, avec la fluidité. Il a toujours aussi le sens du but, meilleure attaque la saison passée. Il est au-dessus de Liverpool cette saison. Il reste encore cette rencontre et le match retour de ce soir. Klopp, lui, a évolué depuis Dortmund avec Liverpool. Plus de solidité défensive, 22 buts seulement encaissés la saison passée. Et puis surtout, un jeu un peu différent, basé sur la contre-attaque.
Merci Jeannot. Alors, pendant longtemps, Guardiola était le modèle pour beaucoup d'entraîneurs. On a le sentiment que maintenant, c'est plus Klopp du gars. Quand la référence.
Parce qu'il est dans. Oui, c'est la référence actuelle. Après, dire qu'il a ringardisé Guardiola, faut pas en
être là.
Je sais que le football va très très vite, mais Guardiola trouvera les solutions. Il va chercher des solutions pour être à nouveau un petit peu plus compétitif. C'est vrai que cette année de cette saison de City, elle est ratée. Elle est ratée. Ils ont énormément de défaites. Ils ont dû peut-être un petit peu émousser aussi. Un petit peu émousser aussi les joueurs. Voilà, c'est difficile de se remettre.
La saison en championnat est ratée pour l'instant.
Oui, la saison en championnat.
Bien sûr.
sûr.
En championnat.
En championnat, c'est vrai, effectivement, ils peuvent très bien gagner encore la Ligue des Champions.
Ils ont déjà gagné la Coupe de la Ligue. Ils peuvent gagner la Coupe. La Coupe et la Champions League.
Ouais, mais c'est vrai que dans le jeu, on trouve le jeu d'aujourd'hui de Klopp plus spectaculaire. On a plus envie de regarder ce jeu qui est basé sur un jeu de transition très rapide, de vitesse, d'agressivité. C'est un jeu qui est totalement différent de celui proposé par Guardiola. Maintenant, les deux sont plaisants à avoir joué. Il y en a un qui était peut-être mieux réglé cette année-là, cette saison, et peut-être que ça changera l'année prochaine. Mais je pense que Guardiola a encore des idées plein sa besace et est capable encore de gagner des choses, des titres, et moi j'ai aucun doute là-dessus. Donc ringardiser, je trouve que c'est un peu fort.
Ouais, c'est un petit peu fort. Moi, ce que j'ai juste à dire, c'est que Guardiola l'année dernière a gagné le championnat et qu'il montrait encore toutes ses qualités avec son équipe. Il a un gros problème cette année, c'est défensivement. C'est là où ça a pêché le plus, où il a eu Laporte qui a été blessé, obligé de mettre Fernandinho défenseur central, et n'a pas pu compter sur une bonne défense pour pouvoir.
Surtout qu'on parle de l'attaque de Liverpool, qui c'est vrai qu'elle est flamboyante, mais je crois que Liverpool gagne ses titres surtout avec une défense de fer.
Même au milieu, tu vois, c'est assez costaud. Mais sincèrement, moi aussi, je suis plus Liverpool parce que c'est un jeu plus vertical, plus direct, qui me plaît plus. Mais tu peux pas nier le fait que s'il y en a un qui a changé le football ces 10 dernières années, c'est Guardiola, et il est toujours en train de le faire. On l'a vu ce qu'il a fait en recrutant, c'est Ederson le gardien, où il a trouvé un moyen de contourner le pressing adverse avec un mec qui sait jouer au pied pour jouer devant vers ses trois attaquants. Je crois que c'est quelqu'un qui est phénoménal, qui est un génie. Le critiquer, ce serait aller un petit peu loin. Je pense qu'il va trouver la solution, mais c'est vachement intéressant d'avoir et Klopp et Guardiola, et je pense qu'il faut les encenser les deux.
Bah bien sûr, c'est pour ça qu'on a ce genre de débats qui sont passionnants, hein, entre les deux entraîneurs, qui sont peut-être les deux meilleurs au monde. Comment tu vois les choses?
Si ce ne sont pas les deux meilleurs, ça fait partie des meilleurs, ça c'est sûr. Non, le problème, si on peut parler d'un problème, c'est la différence dans le comportement. Il y a aussi une certaine mode. Et quand on parle depuis des années, que bon, un entraîneur est entraînant, c'est sûr que quand tu vois Klopp, que tu es joueur ou ancien joueur comme je le suis, ça m'aurait fait plaisir d'être entraîné par Klopp. Mais ça m'aurait fait plaisir d'être entraîné par Guardiola, qui effectivement a peut-être négligé aussi certains postes que n'a pas négligé Klopp, le poste d'arrière central, le poste de gardien de but. Quand on a vu Liverpool mettre 80 millions d'euros pour un gardien, il y a toujours dans la phrase « pour », tu vois, donc ils ont mis 80 millions, oui, effectivement, pour le poste de gardien qui peut-être fait la différence à certains moments, plus que ce qu'on pense, d'ailleurs.
C'est là aussi où c'est quand même la force de Klopp, c'est de faire progresser tous ces joueurs aussi.
Absolument, ça je voulais y venir. On a eu aussi Arsène Wenger dernièrement qu'on parlait que peut-être dans sa... ces 20 années à Arsenal, le poste de gardien de but avait été négligé quelque part. Et Dieu sait que c'est un poste important. Alors, effectivement, quand on regarde ce que tu viens de dire, c'est-à-dire...
faire progresser les joueurs. Voilà. Quand on prend les 11 et tous, ils sont...
Quand on regarde le parcours aussi, tu te rends compte que on regarde jouer cette équipe de Liverpool, on se dit... c'est pratiquement impossible à battre, mais on regarde jouer Manchester City et la saison dernière, vous n'allez pas me dire qu'on peut faire la différence avec toutes les stats, et je sais que Jeannot nous en a donné des précises. Quand je me rappelle simplement la saison dernière, de la façon dont Guardiola, puisque maintenant Guardiola il passe avant Manchester City, alors que pour moi les joueurs sont entraînés par le manager entraîneur Guardiola, et quand tu vois de quelle façon ils sont éliminés par Tottenham, tu as mis de porter plainte au football, oui. Et je pense que tu risques de gagner ensuite. C'est quand même Klopp qui cette année fait un parcours extraordinaire avec ce titre qui n'est plus possible pour Liverpool depuis une trentaine d'années,
Mais c'est bien le Liverpool de Klopp qui est éliminé par l'Atlético aussi, de Madrid et qui ne va pas jouer la Champions League, que va jouer Guardiola en ayant battu notre Zizou imbattable 2-1
Il y a un match retour.
Il y a un match retour. Ça me fait plaisir que tu le dises. Mais excusez-moi que pour le match retour, si tu me demandes un pronostic avec un score de 2-1 au match aller, et je crois que ça sera très compliqué pour le Real. Alors, mais on regardera ça de près.
Dans ce débat Klopp contre Guardiola, on va donner la parole à Romain qui attend au 32-16. Salut Romain, bienvenue dans Team Liga.
Bonjour à tous, merci de me donner la parole.
Salut Romain.
Salut Romain.
Avec plaisir, bienvenue.
Ouais, merci Louis Duga pour ces 4 années. C'est vrai que je vous écoute tous les soirs. C'est vrai que c'est un vrai plaisir de vous entendre. Vous êtes bien entouré. On passe un très bon moment.
Merci Romain.
Donc voilà, et juste pour revenir sur le débat, moi je trouve que ce qu'a prouvé Klopp sur ces dernières années, que ce soit à Dortmund, où il a quand même fait une finale, il a joué le titre contre le Bayern. Après, quand il est venu à Liverpool, il fait une finale, il la gagne l'année dernière. Je trouve, je le trouve supérieur à Guardiola. Quand on compare le parcours, ce que disait Roland en Ligue des Champions de Guardiola, à Munich, où il n'arrive pas à passer le stade des demi-finales, où il s'arrête en demi-finale.
Oui, non, attends, excuse-moi. Il s'arrête en demi-finale. Dans notre pays chéri, d'y aller en demi-finale, c'est un exploit extraordinaire. Oui. Lui, il arrête chaque année.
Enfin, il dépense beaucoup.
Guardiola fait ce qu'il a fait à City depuis qu'il est avec City. Bon, c'est vrai que l'année dernière, il se fait éliminer. Je suis d'accord avec toi, Roland. Sur un fait de jeu, je suis d'accord. Mais je veux dire, il n'a pas non plus un avec City en Coupe d'Europe. Je pense qu'il ferait le même parcours à Paris avec les moyens qu'il a. Je pense que tout le monde lui tomberait dessus. Ou peut-être on n'oserait pas parce que c'est Guardiola.
Quel parcours il fait?
Bah, il se fait éliminer assez tôt en Ligue des Champions à chaque fois.
Assez tôt en Ligue des Champions à chaque fois. À part cette année, cette année, il va sûrement passer contre le Real, je pense. Mais après, ça va être particulier cette année. Mais les autres années, on ne peut pas dire qu'il a fait un parcours extraordinaire. Je crois que l'année où ils sont éliminés par Monaco, je crois que c'est Guardiola.
C'est en quart.
Jean-Louis, c'est ça, c'est Guardiola. Ils gagnent 5-3 et après, ils en prennent, sur les deux matchs, ils prennent. Parce que plus de 6 buts, je veux dire, ça serait Guardiola, s'il entraînerait à Paris, j'espère qu'on lui dirait que c'est catastrophique, quoi.
Et Jean-Louis, est-ce que tu sais.
Non, ça, c'est Romain.
Je pose une question parce que toi, t'es notre spécialiste et expert et que tu sais tout sur tout. combien de millions a dépensé Klopp depuis qu'il est à Liverpool et combien Guardiola l'a dépensé?
Guardiola a dépensé plus.
Ouais, c'est ça, parce qu'à un moment donné, je pense qu'on aurait donné à Roland. Courbis, on aurait donné à Roland Courbis 300 ou 400 millions chaque année pour dépenser, et trouver des joueurs. Je pense qu'il aurait fait aussi sans doute une demi-finale de Champions League. Tu vois ça que je veux dire.
J'espère que sur les 400, j'allais miser soit sur
le match terre, soit tout sur le
match. Que j'allais dire. J'ai peur que sur les 400, tous ne partent pas dans l'achat de joueurs. Mais bon. Et juste pour le parcours de City, ils n'ont pas franchi les quarts de finale de Ligue des Champions depuis 2016, où ils avaient fait demi-finale contre le Real. Mais voilà, pour Guardiola en Ligue des Champions, ça va pas plus loin que l'écart. Ça va dans le sens de ce que nous disait Romain, que l'on remercie.
L'année dernière, elles sont pas en demi?
Non. Et non, Tottenham, c'est en quart.
Oh.
De demi, c'est l'Ajax pour Tottenham.
Ah, exact.
Et voilà. Et là, du gars, hein? T'as vu ça?
Bravo. T'es au-dessus, mon Jean-Louis.
Ouais, non, mais on a l'impression que Klopp réussit.
En même temps, t'es payé pour ça, fais pas le malin.
Ouais. Non, je sais pas.
On a l'impression que Klopp, quand même, réussit avec beaucoup moins de stars. Quand on regarde tout son effectif et qu'on regarde le banc qu'il a par rapport à Manchester City, on a l'impression quand même que l'effectif est moins talentueux sur le papier que celui de Guardiola.
Jimmy Brown, notre producteur.
Oui, qui est aussi
une sommité. Bien meilleur qu'Antoine Varnier.
Je n'oserais pas dire, mais pas loin.
À la louche, il me dit que c'est 600 millions dépensés par Guardiola, 400 pour Klopp à Liverpool.
Vous continuez à me contrarier que vous ne parlez uniquement que des transferts de club à club. Les salaires, on s'en fout.
Moi, je réponds à Franck Leboeuf.
J'y réponds.
Il va calculer avec
peut-être
les salaires.
Ça en rajoute encore plus, mais peut-être ça en rajoute encore moins.
On remercie Romain au 32-16. Le match ce soir, 21h15 sur RMC Sport, à la télé, sur RMC, à la radio. Donc, ce match gala, puisqu'il y a de l'enjeu surtout pour City, qui veut assurer sa place en Ligue des Champions la saison prochaine. Dans un instant, Nice, Espagne. plus que jamais le modèle à suivre pour nos clubs de Ligue 1, que ce soit au niveau du recrutement, de la politique sportive, de la communication. 32-16 pour en parler, à tout de suite.
RMC, 18h-20h.
Tim Duga,
Jean-Louis Tour,
Christophe Dugarry.
Allez les amis, 18h32, Tim Duga continue avec Jean-Louis Tour, Franck Leboeuf et Roland Courbis. Exactement, il y aura également le journal moyen dans Tim Duga à 18h45 avec Adrien Aigouin. Salut Adrien.
Bonsoir les copains, ça fait bonsoir, 20 ans salut, Duga et Francky.
Aujourd'hui
le 2 juillet 2020. 2000. Il y a 20 ans, le 2 juillet. Je regardais la
télévision.
Nous sommes en 2020. Il y a 20 ans, vous gagnez l'euro.
Tu sais que moi, je ne me rappelais pas la date de la finale.
C'est vrai? Mais ah bah, c'est, on y est.
Tu l'as vu cette finale?
Hein?
Tu l'as vu cette finale?
Ouais, non, j'ai discuté avec Manu et Elisa sur le banc. Mais,
totalement carbo.
Alors, vous gagnez l'euro, on va revivre le match.
Cadrin, il a bu avant. Là.
Non, je suis nickel. On va revivre le match. Et moi, ce que j'aime bien, c'est aussi la réaction d'après-match.
Ne te moque pas des alcooliques, s'il te plaît.
La réaction d'après-match sur TF1, notamment Franck Leboeuf au micro de Pascal Pro, et c'est très bon.
Ah, j'imagine, oui. Bah, on aura ça tout à l'heure. Merci Adrien.
Déjà bourré. Le jeune Francky, nickel, ça va.
Mohamed Bouafsi est de retour avec nous. On va parler de Nice. Mais juste avant, quand même, Duga, sache que tu ne peux plus candidater pour le poste de Head of Business de l'Olympique de Marseille.
Ah, ils l'ont trouvé?
C'est fini. Ça y est, ils ont trouvé. Il s'appelle Hugues Ouvrard.
Non, mais on va arrêter de dire Head of Business quand même.
Pourquoi?
Parce que c'est sur le communiqué, c'est directeur délégué. Directeur général délégué.
Mais pas sur LinkedIn?
Non, sur LinkedIn, c'est resté Head of Business.
Alors, moi, je reste sur Head of Business.
Je suis sur LinkedIn, moi.
LinkedIn.
Ouais.
Qu'est-ce que ça fait?
Bah non, mais je sais pas, LinkedIn. C'est comme Tottenham. LinkedIn.
D'accord.
Voilà, okay. Ouais. On parle anglais ou on parle pas anglais? Vous voulez parler anglais?
Je savais pas qu'il y a le Wall Street Institute à table.
Ouais, ouais. Allez, vas-y, enchaîne.
Wall Street Institute.
Mais ah, c'est gênant.
Ouais, c'est gênant.
On est habitué.
C'est gênant parce que vous savez pas parler anglais, mais c'est pas grave.
On peut parler de lui, Mohamed. Donc, il était chez Xbox.
Oui, chez Xbox.
Xbox.
Arrête, t'as l'air surpris. Xbox, tu connais, t'es très jeune encore. C'était Roland qui me parlait comme ça des Xbox.
Je connais.
Non, il est passé à l'OM il y a quelques années parce qu'il avait participé à la création d'OMTV. Il est passé par SFR, il est passé par Xbox, par Canal+. Et donc, il arrive à l'Olympique de Marseille en tant que directeur général délégué. Il ne touchera pas à tout l'aspect sportif et l'aspect footballistique. Et voilà. Et donc, il va se lancer dans sa mission dans les prochaines heures et ça démarre. Après, les réseaux sociaux sont très durs.
Oui, alors il a juste un problème, c'est qu'il n'a pas nettoyé son compte Twitter.
Ouais, il fallait nettoyer son compte Twitter avant de démarrer son aventure à l'Olympique de Marseille. Il y a quelques tweets du gars où il explique qu'il aime bien le PSG et ça a été retrouvé. Magnifique. Mais faut dire aussi qu'il n'y a pas besoin d'être supporter d'un club quand on est dans une fonction de ce genre. Si c'était le directeur,
c'est même mieux maintenant. Hein. Maintenant, de toute façon, c'est mieux parce que tout le monde est comme ça. Donc autant être supporter d'une autre équipe pour travailler dans un club.
Ça aussi, Romain de Bordeaux, c'est le cas. C'est pour ça.
Ben voilà, c'est pour ça que je dis ça. Ouais, mais c'est pour ça. Ils sont tous supporters de notre club que les Girondins de Bordeaux et pourtant ils y bossent. Ah ouais, non mais c'est fou.
Non mais Jean Guépé, supporter de quelle équipe?
Non mais ce que je voulais dire du gars,
oui,
c'est qu'il y a
PSG, ouais, c'est vrai.
Non mais il a travaillé au PSG, mais ce que je veux dire c'est du gars, c'est que je connais des supporters de l'OM qui bossent au PSG par exemple. Voilà, parce que j'ai pas envie de leur faire des problèmes, mais
ouais, bien sûr. Non mais je suis pas surpris, hein, Mohamed, ouais. Je suis pas surpris.
C'est vrai.
Voilà.
Bon, c'est vrai. C'est la nouvelle tendance.
Football va pas bien.
On connaît même des journalistes, enfin bon bref. Alors, on enchaîne sur Nice donc, puisque depuis longtemps du gars tu nous parle de ce qui se passe à Nice, de la politique sportive du club, quoi.
Oui, vas-y, enchaîne.
Que c'est un modèle pour toi, ce qu'accomplissent Jean-Pierre Rivère, Julien Fournier. Et ce qui se passe depuis quelques jours peuvent te conforter là-dedans, notamment sur le mercato. Mohamed,
oui.
5 recrues déjà à Nice. Hein.
Oui, et des recrues assez importantes. On peut citer l'international français Morgan Schneiderlin, qui arrive du côté de Nice pour 2 millions d'euros seulement. Donc c'est une belle opération. Il voulait absolument revenir en France et donc il a su trouver ce projet niçois et surtout l'envie de jouer le top et le haut du tableau en France. Donc ça s'est bien passé avec les dirigeants niçois. Ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois que Julien Fournier et Jean-Pierre Rivère étaient sur ce dossier. On peut aussi évoquer Hassan Camara. Il avait plusieurs offres. Tu sais, Dugas, c'est le joueur du Stade de Reims. Il était courtisé par plusieurs bons clubs anglais, pas des très gros clubs, mais plutôt plusieurs bons clubs anglais. Il a préféré rester en France, donc ça travaille bien à Nice. On peut aussi parler d'un espoir qui arrive en provenance du Bayern Munich, qui n'avait pas signé son contrat pro avec le Bayern Munich. Il a préféré signer son contrat pro avec le GC Nice. Et je peux te dire qu'ils étaient assez agacés de le perdre au Bayern Munich, mais le joueur, lui, voulait jouer. tout de suite jouer et donc il s'est dit je vais plutôt trouver ma place à Nice plutôt qu'au Bayern. Donc ça travaille plutôt bien. On peut aussi évoquer l'envie de réaliser d'autres coups. On peut parler de
sur les 5 recrues, on peut parler d'un tarif de combien là, parce que 2 millions Schneiderlin, les autres ça en a combien pour avoir recruté 5 joueurs, combien d'argent?
Je vais vérifier tout de suite un seul transfert, celui de Camara, parce que j'ai un petit doute, mais en tout cas c'est sur des enveloppes, c'est des enveloppes qui sont assez on veut faire des opérations à petit profit, c'est pas des gros transferts, mais tu vois.
Schneiderlin 2 millions, ouais, le garçon qui a 30 ans avec le passif qu'il a, la carrière qu'il a.
Camara c'est 4, voilà. Donc ouais, c'est un deal qui est assez intéressant. Le seul transfert qui est un peu cher, c'est Guiri, parce que là aussi on peut parler de prospect, il arrive depuis Lyon pour 7 millions d'euros. Ça c'est un joueur qui n'a pas beaucoup évolué en Ligue 1, donc ça c'est assez cher. Bambou, Rodsheim Bambou, il arrive depuis l'Atlético Paranaense, lui c'est un gros espoir aussi du football brésilien. Il arrive pour 7 millions aussi d'euros. Ça travaille bien, quoi.
En fait, ce qui est beau, d'accord, du gars, c'est d'arriver à faire des coups alors qu'on sait qu'ils ont les moyens, Nice, maintenant.
Bah, c'est là que c'est encore plus fort. Il pourrait dépenser plus, voilà, pour faire des gros coups, pour faire du buzz, et puis pas du tout. Ça continue à travailler de la même façon, de la même manière. C'est pour ça que on est toujours en train de débattre ou de parler de moyens. C'est pas un problème de moyens, c'est un problème de projet. Quel projet tu veux mettre en place? Ça sert à rien de vouloir. Regarde l'Olympique de Marseille, ils ont dépassé 250 ou 300 millions d'euros depuis que Macourt est arrivé. Pour quel résultat? Il est pas là le sujet. Le sujet, il est pas de mettre de l'argent. Le sujet, il est de bien travailler et de travailler d'une certaine manière. Voilà. Après, des fois ça va fonctionner, des fois ça va moins bien fonctionner, mais au moins tu as une stratégie. Tu te tiens à cette stratégie et c'est ça qui est intéressant et c'est ça qui est passionnant dans la façon de travailler. C'est pas parce que demain matin tu vas gagner au loto que tu vas faire n'importe quoi, tu vas exploser tous les budgets avec malheureusement aucune garantie que les choses fonctionneront mieux. C'est rarement en adéquation. C'est pas plus tu vas mettre d'argent, plus tu vas gagner de l'argent. C'est pas aussi, c'est plus tu vas gagner de matchs. C'est pas aussi simple que ça. Et il faut sortir de cette logique-là parce que ça n'est pas une logique de foot sportive. Alors, ou alors tu mets carrément 500 millions, ce que Nice ne pourra pas faire. Et là, c'est vrai, tu passes dans une autre espèce de catégorie où tu peux recruter des joueurs à 150, à 200 millions. Mais après, quand t'as des joueurs à 7, 8 millions et des joueurs qui vont vouloir 20, 25 que tu vas surpayer, qui en vérité valent peut-être qu'un tiers de ce prix-là, mais parce que tu as un peu d'argent, tu vas être obligé de les surpayer. Ils ne surpayent pas des joueurs, et c'est ça qu'il faut arriver à faire. Les joueurs, malgré tout, il y a une cote des joueurs. Il faut savoir, voilà, alors elle est plus ou moins, elle bouge plus ou moins, en fonction des moments, en fonction des périodes, en fonction des crises, mais les joueurs ont toujours une cote. Et heureusement, arrêtons de partir sur des sommes, sur des joueurs qui n'en valent pas la moitié, quoi.
Mais soyons conscients aussi que du côté de Nice, tout semble réuni pour justement réussir. Tu as la compétence aux deux postes importants du club avec Julien Fournier et Jean-Pierre Ribéry, qui sont quand même compétents et expérimentés. Tu te rends compte que Julien Fournier était à l'Olympique de Marseille quand on y était nous, du gars. Et donc, ouais, il était toujours aussi discret, toujours aussi calme et toujours aussi efficace. Et ensuite, là, tu as maintenant les possibilités financières pour mettre en place et continuer à être performant dans la formation. Tu sais très bien qu'il y a certains joueurs qui regardent avec leur femme sur un plan géographique où se trouve le futur club de leur mari. Quand tu expliques que c'est du côté de Nice, on ne peut pas dire que c'est un handicap, tu vois. Et donc, après, la possibilité de fixer comme objectif de terminer tous les ans dans les 6 premiers et pas obligatoirement à la 6e place, ça peut être réussi, oui, de façon sympa, dans un endroit sympa du côté de Nice.
Et nouveau stade, nouveau centre d'entraînement.
Il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes. Et
le stade est magnifique.
Exactement. Schneiderlin qui revient en France, qui a la possibilité d'avoir une deuxième chance, ça me rappelle Ben Arfa, ça me rappelle Balotelli. Ça n'a pas été, il me semble, des échecs. S'il y a eu un moment où Ben Arfa a brillé, c'était quand même à Nice. Balotelli a quand même fait le boulot, même si c'était plus à domicile qu'à l'extérieur. Et Schneiderlin a le mental et l'expérience pour apporter énormément de choses. Et je trouve ça très intéressant par rapport à ce que disait Christophe, c'est-à-dire que tu cherches des joueurs qui peuvent t'apporter sur un an ou deux.
Oui, et puis le recrutement, tu vois tout de suite, après on peut se tromper dans le recrutement en ce qui concerne la complémentarité, l'adaptation des joueurs. Mais là, il semblerait que vu de l'extérieur, nous passionnés de football, tu as un jeune arrière central un peu inexpérimenté qui arrive à côté d'un qu'il est beaucoup expérimenté.
Dante.
Dante, tu as Schneiderlin qui va être au milieu de tous ces jeunes dans un poste en plein cœur de l'équipe, quelle que soit l'organisation. Et c'est vrai que c'est une bonne idée. Le petit Lyonnais, il doit être regardé du côté de Lyon avec beaucoup d'inquiétude, du sens. Tu vois pas qu'il explose celui-là à Nice alors qu'on l'avait chez nous. Il y a déjà, je me rappelle plus celui qui est parti à Monaco, à une vingtaine de...
Goebbels.
Ouais.
Goebbels.
Donc ça fait du côté de la Côte d'Azur. Il y a deux jeunes Lyonnais formés à Lyon dans ce centre de formation performant qui sont quand même, bon, maintenant plus à Lyon, ce qui est peut-être Roland, regrettable, mais on ne peut pas garder tout le monde.
Roland Dugas, ça va te plaire, je sais que vous aimez les chiffres. On parle des salaires aussi, à Nice, il y a une vraie réflexion sur les salaires. Quand on est un joueur qui est un joueur en devenir, hors de question d'avoir un très gros salaire, tout l'effectif ne gagne pas plus de 100 000 euros, hormis les cadres, vraiment, les joueurs qui sont arrivés comme des, j'ai pas envie de dire des stars, mais des joueurs confirmés. On peut citer Ben Arfa, Balotelli. Donc là, ça sera par exemple le cas de Schneiderlin, mais on fait vraiment attention à avoir un équilibre financier dans tous les salaires.
Quel bonheur d'entendre ça. Non, mais comme quoi c'est possible,
Je le sais parce que je parle à beaucoup d'agents. Julien Fournier, il est toujours dans les avions, il est toujours en train de voyager, comme Luis Campos. D'ailleurs, on peut aussi citer Luis Campos. Mais quand on va trouver Bambou à l'Atlético Paranaense, c'est vraiment qu'on a une vraie réflexion. Et d'ailleurs, ils ont pas une équipe de 50 recruteurs, hein. Le GC Nice, ils bossent vraiment avec des prospects. Et après, il y a un équilibre des forces. Et c'est le cas notamment entre Jean-Pierre Hivert et Julien Fournier.
Bosser avec des prospects. Très bien. Merci Mohamed.
T'étais un prospect, toi, il y a quelques années. Maintenant, t'es confirmé.
Tu veux, ouais. Dans un instant, le journal moyen. Adrien Aigouin, l'Euro 2000, etc. Tout de suite. Allez, quelques messages sur les réseaux sociaux.
Quelques prospects. Allez.
Ah, les prospects, moi je découvre ça là. C'est jeunes prometteurs quoi. Ouais,
c'est quoi ça. Ces mots anglais là, vous sortez depuis tout à l'heure là.
LinkedIn, c'est un réseau social.
Oui, non, mais je sais. C'est le seul réseau social où on peut trouver M. Dugas, il a LinkedIn d'ailleurs.
Oui, exactement.
C'est le seul.
T'as ouvert ton compte LinkedIn en ce moment, Dugas ?
Profitez-en, il n'y a plus que dans 4 jours, pas jeudi prochain, il n'y aura plus rien, je vous le dis de suite.
Comment ça ?
Bon, c'est bon.
Il nous répondra qu'on appellera.
Ouais, à vous. Non, mais toi, t'as mon numéro de portable. Toi,
oui,
mais tu
bien
me contactes
sûr.
Pas sur LinkedIn.
Sur LinkedIn, ce sera fini aussi.
Oh non, c'est bon. Allez, les polémiques, là, machin, tout ça, c'est bon. Les rideaux, virer tout ça. C'est bon, merci. Oh là là.
T'as raison.
Et c'est oui, ouf. Écoute.
Ouais.
Ça te manquera.
Ouais. Et dire qu'il y en a qui pensent que je vais m'ennuyer, c'est fou. C'est fou.
Bon, vous pouvez quand même nous envoyer des messages sur le hashtag RMC Live, sur Direct Studio, ou nous appeler directement au 3216, comme ça il y a un rapport direct au téléphone. C'est génial, à tout de suite.
RMC, 18h20.
Tim Dugas.
Jean-Louis Tour.
Christophe Dugarry.
Allez les amis, 18h48, Tim Dugas continue avec Franck Leboeuf, avec Roland Courbis, avec Jean-Louis Tour. Les amis, à partir de 19h, nous allons parler de Lille.
Alors on va plutôt parler de Grégory Coupé.
Excuse-moi.
On a un peu changé le programme, t'inquiète pas.
Ouais.
Parce que Grégory Coupé a réglé ses comptes avec l'Olympique Lyonnais, lui qui est désormais entraîneur des gardiens de Dijon. On se demandera si l'OL s'est mal comporté avec lui, 32-16. Pour en parler, on aura les infos des deux.
Il a manqué de respect.
En plus, oui exactement. Je veux plus intituler les débats comme ça maintenant, ça part trop dans tous les sens. Le journal moyen tout de suite, Adrien.
À la une du journal moyen de Tim Dugas, spécial 2000. Donc aujourd'hui sur RMC, il y a 20 ans, Franck Leboeuf avait déjà le sens de la formule, ce qu'on appelle aujourd'hui une punchline. Il y a 20 ans, Zidane balançait déjà en conférence de presse après les matchs, il envoyait du bois à mon Zizou. Et puis question pour spécial il y a 20 ans, question pour Euro 2000. Je pense que Jean-Louis Tour va vous humilier.
Non, je pense pas.
Tu vas leur manquer de respect, Jean-Louis.
Non, je pense pas.
C'est parfois les compétitions auxquelles on participe. C'était Dugas en 2002 et toi en 2002 là sur la Coupe du Monde 2002, nul.
Ouais. Franck et Dugas en 2000, j'ai pas du tout participé.
Celle-là, ils n'ont pas joué non plus.
J'étais pas participé en 2000.
Non.
Vous écoutez RMC, c'est le 347e journal moyen de l'histoire de Tim Dugas.
En direct de la rédaction d'RMC Sport.
C'est le journal moyen de Tim Dugas.
Adrien Aigouin.
On se fait plaisir, parce qu'il faut se faire plaisir, ça fait du bien. Nous sommes le 2 juillet 2000, il y a 20 ans, 20 ans tout pile, 21,4 millions de Français avaient les yeux rivés sur Dugas, sur Francky, sur tous leurs copains.
C'est génial ce programme.
Ah, écoutez, Adil Ramzi.
Il est différent de nous tous.
C'est moi le pan.
C'est moi, oui, le pan. Il fait des blagues, il est énorme ce Francky.
Séquence nostalgie. Séquence histoire pour les plus jeunes qui nous écoutent. Nous sommes le 2 juillet 2000 à Rotterdam. C'est la finale de l'Euro. France-Italie, 55e minute. C'est le cauchemar. Nous sommes sur TF1, comme tous les Français et les Italiens ont le ballon. C'est le cauchemar.
Albertini va remettre dans le paquet. Non, il a préféré Totti.
Pas de faute. La talonnade.
Et dans le jeu.
Et Soto. Et but.
But de Del Vecchio.
Et but Del Vecchio à la reprise de ce centre. Del Vecchio tout seul.
But de Del Vecchio. C'est long, c'est la galère. 58e minute. Roger Lemaire prend des décisions et décide de sortir du gars et de ne pas faire entrer Franck Leboeuf. Et là, tout bascule. Sur le banc, les Italiens font déjà la fête. Dugas a envie de leur mettre des coups de tête. Je te connais par cœur, Dugas. Je sais que c'est vrai. C'est le temps additionnel. 94e minute. Barthez relance long, très très long.
Barthez, 48 minutes. C'est la dernière. Allez, allez.
Allez.
Trezeguet. Wiltor. Oh et but.
Dernière seconde, encore Jean-Michel Larquet, Thierry Roland, c'était quand même la grande classe. But de Wiltor, prolongation. C'est la règle du but en or. L'équipe qui marque est championne d'Europe, 103e minute. Pires sur le côté gauche. Il peut faire la passe à Zidane, mais folie, il ne fait pas la passe à Zidane. Il décide de déborder sur son côté gauche.
Donc l'initiative parce que la fatigue a commencé à se faire sentir côté transalpin. Pires, oui, il est passé. Centre en retrait. Et but. Et but de Trezeguet.
21,4 millions de Français crient comme Jean-Michel Larquet.
Ça fait des frissons. Extraordinaire.
Un but de Trezeguet. Ouais. Champion du monde en 98 et donc maintenant champion d'Europe, Euro 2000. Et puis moi, je me suis replongé dans les réactions après le match. Parce que c'est ça qui est le plus intéressant. TF1 garde l'antenne pendant plus d'une heure, 1h15 d'antenne. Une sorte d'after géant sur TF1. Les invités défilent sur le plateau de Pascal Pro. Franck Leboeuf, tu arrives en plateau et tu rends hommage. Là, c'est très sérieux et c'est mignon à Laurent Blanc, ton concurrent, ton rival, un peu coupable sur le but de l'Italie.
J'ai discuté un petit peu avec Laurent qui me disait qu'il avait peur de mettre la tête et que, parce qu'il pensait que s'il mettait la tête, il mettrait contre son camp.
Donc
c'est toujours une position délicate pour un défenseur. Mais bon, à la fin, tout se finit bien. Moi, j'ai été voir Lolo et j'ai dit qu'il n'y avait pas plus belle fin internationale que celle-ci. Et donc moi, je suis très, très content pour lui et pour toute l'équipe de France.
C'est mignon.
Et on en met une petite à Laurent Blanc quand même au passage.
Non, je suis pas aussi tordu que toi.
Non,
je suis pas aussi tordu que toi. J'essaye au contraire d'expliquer pourquoi il met pas la tête.
Voilà. Et c'est ce qu'il t'a raconté en plus.
Oui, c'est vrai.
Et puis alors, normalement, et c'est là qu'on voit que Francky est déjà prêt pour la scène, pour la radio, pour le show, pour l'entertainment. Parce que normalement, Pascal Pro tente de le remercier. Monsieur, il faut.
Oui, il veut pas partir.
Il y a 21 autres joueurs qui doivent venir. Mais Franck dit non, parce que j'avais préparé une petite punchline pour terminer l'intervention. Et là, c'est très bon, Francky.
Moi, je suis très, très content pour lui et pour toute l'équipe de France. Et puis, je tenais à dire que nous avions Dieu Jacquet depuis 98. Et maintenant, on a Saint-Pierre le maire qui nous ouvre les portes aussi du paradis. Donc, c'est parfait.
Magnifique, Francky, la punchline.
Je pense que je vais y aller.
Dramatique.
J'étais meilleur en 2000 que maintenant.
Si Pesanti avait entendu ça, il t'aurait jamais engagé.
Non, mais vous êtes les mêmes 20 ans après.
C'est incroyable. Et ce qui est bien, c'est que Pascal Pro, il fait comme Jean-Louis Tour aujourd'hui. Il a fait Ouais. Il faut enchaîner là. Vite,
les gens ne changent pas.
Incroyable. Hein,
il y en a un qui n'a pas changé, c'est Zinedine Zidane. Comme d'habitude, il arrive en plateau et il balance parce que c'est un dingue, Zizou. Et il dit des choses que personne n'en dit après le match.
Ça, on savait très bien qu'ils allaient nous créer des problèmes, des difficultés. On a eu un match difficile et c'est vrai que s'il n'y avait pas eu la 93e minute. Le but de Sylvain qui remet tout le match en jeu. Je crois que il n'y avait pas créé au scandale.
J'en ai chialé quand j'entends ça. Le mec, il a du courage.
Qu'est-ce que tu vas rajouter derrière? C'est exceptionnel.
Les gens ne changent pas.
Et d'ailleurs, tous les joueurs passent.
Il a changé, il est meilleur maintenant.
Franchement, vous étiez 22 à l'époque. C'était pas encore 3.
Tu as raison.
Je pense qu'il y a 17-18 joueurs qui passent. Pas de Christophe Dugarry au micro de Pascal Pro. Que faisais-tu, Dugas, après le match?
Énervé d'avoir été remplacé.
Non. Tu faisais la fête déjà
J'étais content. J'étais content d'avoir joué déjà.
Oui.
Non, j'étais pas vénère.
On termine avec un question pour.
Oh là,
bien sûr. Allez, parti, le grand combat. Question pour donc l'Euro 2000.
Coach, il faut trouver les réponses.
Coach,
je me permets de te réveiller.
Tu devais être consultant, coach, pour l'Euro 2000. Pour une chaîne, non? Pour une radio. Toutes les compétitions, j'ai vu coach le consultant.
Si,
ben voilà.
En 2000?
En 2000, non. Non, pour Canal, pour télévision.
Ni pour Canal non plus.
Peut-être, vite fait. Qui termine cette année-là de l'Euro 2000? Troisième.
Il n'y a pas de troisième.
Il n'y a pas de troisième à l'euro. Il n'y a pas de match pour la troisième place.
C'est pour ça qu'on n'a pas répondu.
Je veux, un peu plus compliqué, les deux meilleurs buteurs de l'Euro 2000.
Kluivert.
Ouais. Patrick Kluivert.
Henri.
Pays-Bas.
Non, Henri a 4 buts, je crois.
N'oubliez pas qu'il y avait une sélection yougoslave.
Oh, Milosevic.
Oh, Savo Milosevic.
Parce que je l'ai vu il y a deux jours. Hein, j'avoue que je triche pas.
Bonne réponse de Franck Leboeuf.
Ah, bravo, Francky.
Espagne-France en quart de finale. Quel joueur espagnol est buteur sur penalty? Eh ben non.
Et il le rate.
Raoul, il le rate. Non.
Elguera. Ah non.
Du gars, Francky, vous avez joué ces matchs? Ah, ça commence par un M.
Mounitis?
Non.
Mounitis?
Non. Mendieta.
Mendieta
qui marque le pénalty face à Barthez. Oh. Le deuxième pénalty, c'est Raoul et il le rate, il tire à côté. Et puis là, c'est de la rapidité sur 7 euros, tout simplement. Qui est sélectionneur de l'Italie?
Capello.
Capello, ouais.
Mais non, pas du tout.
Lippi?
Pas du tout.
Zoff?
Sacchi?
Dino Zoff. Ouais. Bonne réponse de Jean-Louis Tour. Sélectionneur de l'Italie.
Dino Zoff, je me rappelais même
plus.
Je me rappelais même plus qu'il avait été sélectionneur.
Il est à 98-2000, je crois.
Voilà.
Très bien, merci Adrien.
D'accord.
Maldini en 98, le sélectionneur.
Ah oui, oui, c'est ça, pardon. Je dirais que.
Bravo. Bravo, France, les gars. France, non, mais bravo à vous surtout.
Je dirais que France 98 avait son dieu Jacquet.
Oui, et puis de Saint-Pierre le Romain.
Il a mon téléphone dans ta gueule, tu vas le recevoir ou quoi?
Merci, il a ouvert les portes du paradis.
Ouais, je trouve ça pas si mal. J'ai fait pire.
Ah oui, c'est ça le problème.
Bravo à vous en tout cas, les gars, parce que c'est pas mal quand même.
C'est pas mal.
Refait,
en tout cas.
Merci Adrien. Ça n'a pas été refait, oui et non.
L'Espagne n'a pas été fait avant, ça n'a pas été. Non, l'Espagne, en France, on attend.
Ah oui,
jeunes,
oui.
On attend l'année prochaine, on est avec eux, là.
Bien sûr.
La bis repetita.
Dans un instant, Grégory Coupé n'est pas content de son départ de Lyon. Il l'a expliqué aujourd'hui. On y revient dans Team Dugas tout de suite.
RMC, 18h20.
Team Dugas.
Jean-Louis Tour.
Christophe Dugarry.
Allez les amis, 19h04, Team Dugas continue avec Roland Courbis toujours là, Franck Leboeuf également, Jean-Louis Tour, mais nous accueillons le moins mauvais d'entre nous, c'est Julien Cazard. Bonsoir Julien, comment ça va?
Oui,
c'est joliment amené.
N'en fais pas trop. Parce que là on sent que t'es au bout du rouleau. Là t'attaques le ton, t'es en fin de vie.
Alors on va compter les émissions là, je pense.
Et je pense que le fait de faire un débat sur Mitroglou prouve que les vacances vont être bonnes pour tout le monde.
Ah non, c'est pour lui remonter le moral.
Ah bon?
Clairement.
Ah bon?
Oui.
Tu crois sincèrement que ça va me remonter le moral?
C'est pour le finir, je pense que c'est pour finir.
Ouais. Oui, t'as été très bon sur Mitroglou. J'ai annoncé qu'il était nul dès le début.
Franchement, c'était évident là. Et puis c'était pas évident de le voir.
Puis on l'a vu quelques mois après. Attends,
C'est là que ça prouve que Dugas était quand même un visionnaire.
On y reviendra tout à l'heure.
En nullité, je m'y connais, ouais, ça c'est sûr.
Tu repères les arnaques.
On y reviendra
tout à l'heure à 19h30. Mais moi, je me souviens que des gens défendaient Mitroglou. Hein,
qui?
Sur cette antenne. Des supporters de l'OM.
Non, mais c'est normal. Évidemment, c'est comme il y a un nouveau dans la famille, t'as toujours envie de le défendre, alors que bon, peut-être qu'il est complètement con, relou et il est moche, mais t'as envie de lui donner sa chance, il est dans la famille. Alors que nous, on s'en fout, on est complètement indépendants et on voit que le mec, il marche comme un canard, qu'il a l'air surpris quand il marque un but.
Bon. Il y en a tout à l'heure.
On a le droit de dire moche?
Non, on a du respect pour tout le monde, quel que soit leur fils.
On a le droit de dire canard, non? Canard, pardon.
C'est-à-dire canard.
Des canards, l'association des canards, est-ce qu'on se moque des canards, peut-être, non?
Ouais.
Je pense qu'on peut dire marcher en canard encore.
Ouais.
Est-ce que ça passe?
Producteur de foie gras, on passe, non?
Pas sûr que Daffy Duck vous appelle. C'est scandaleux. Bon, bref, allez, on enchaîne. Donc, il y aura le blind test également tout à l'heure, 32-16.
Ne critiquez pas les barbes, qu'aujourd'hui, tout le monde est barbu.
Ah, pas toi, coach.
Mais non, mais bon, moi, j'ai dû oublier.
T'as déjà essayé? La barbe?
Deux, trois jours.
Oui, oui.
Et alors?
Ça me gratte.
Oh.
Franchement, honnêtement, vu qu'on va parler de Mitroglou, c'est un très bon débat, la barbe. Peut-être qu'il avait de mieux, Mitroglou.
Oui, c'est vrai qu'il avait une belle barbe.
Magnifique.
Ça serait intéressant encore.
Une tête de personnage de Tintin.
Bien sûr, Rastapopoulos.
Un genre de. Ouais.
Bon, bref.
Vous moquez pas trop, les gars. Vous moquez pas trop, il va revenir, je vous le signale quand même.
Ah, oui, c'est vrai. Bon, on y revient tout à l'heure. Donc, sur Mitroglou, c'est à 19h30. On reviendra également ensemble sur toute l'actu du jour, notamment Christophe Galtier qui est énervé d'avoir perdu Loïc Rémy. Et puis 32-16, donc je vous l'ai dit, pour le blind test tout à l'heure. Mais on va débuter tout de suite par ce qu'on appelle un règlement de compte. Règlement de compte à Gaston Gérard, le stade de. le stade de Dijon.
C'est vrai que ça fait bizarre quand on dit ça.
Ah, j'achète le film.
Edouard G. Edouard G nous rejoint.
On peut acheter, les droits du film.
C'est pas non plus, hein, faites entrer l'accusé.
Salut, Franck. Salut, Roland.
Salut.
Salut. Alors, Edouard.
Ah, ça vous a plu, hein, ce règlement de compte à Gaston Gérard.
Bien sûr. Ouais. Alors, Edouard, donc, ce que je vous propose, c'est d'écouter Grégory Coupé, nouvel entraîneur des gardiens de Dijon, qui donc a dit.
On est obligé de mettre un gilet pare-balles, c'est une balle perdue. On fait attention, non?
Oui, oui, exactement. Bon. Puisque donc, effectivement, il a envoyé quelques bastos à son ancien club, à l'Olympique Lyonnais, un club pour lequel il a joué pendant des années, gagné énormément de titres, et la fin ne s'est pas bien passée. On l'écoute, et Edouard, tu complètes après avec tes infos.
Là, on va dire, Rudy, quand il est arrivé, il faisait confiance à son noyau dur, et on n'avait pas d'atome croché, peut-être. Ouais, c'est vrai qu'on a une vision un peu différente de ce que c'est le management et le côté collectif. Bah, Lyon m'a reproché d'être peut-être trop proche de mes gardiens. Alors ça, je sais pas si j'arriverai à faire autrement. Je vais essayer peut-être d'être moins proche en amitié peut-être. Sur ce coup-là, bon, on va dire, j'ai pas super bien compris, mais bon, c'est comme ça. Il fallait bien essayer de me reprocher quelque chose. Je demandais pas ni d'augmentation, ni de revalorisation de quoi que ce soit. Je demandais juste, est-ce que l'aventure continue ou pas? Le 5 mai, quand ils nous ont annoncé la fin du confinement le 11, j'ai envoyé un message à Juni en lui disant que, bah, ce sera peut-être l'occasion de provoquer une réunion de visu avec Rudy, lui et moi-même. Pas de réponse. Je quitte une usine à gaz qui est l'Olympique Lyonnais pour revenir à un petit club plus familial.
Voilà. Donc, vous aurez compris un peu tout.
Tu trouves qu'il y a de quoi en faire un gros fromage ou quoi?
Bah, il y a quelques tirs envers Lyon, là, non?
Ouais, mais bon.
C'est pas Juninho qui prend cher, surtout, là?
Bah oui, j'ai l'impression, moi.
Il dit juste que là, tu lui as pas répondu.
Alors, non, mais... Edouard, déjà, toi qui as suivi le dossier et qui as suivi cette conférence de presse. Est-ce que ça dure en plus?
Ça a duré 27 minutes. Alors forcément, il y a une grosse partie au départ où on l'interroge sur ce départ de Lyon. Donc forcément, il répond et il met quelques tacles, on va dire. Mais ce qui m'a plus surpris, c'est qu'il y a un certain nombre d'autres moments où il n'était pas sur forcément des questions lyonnaises. C'était plus des questions dijonnaises. Qu'est-ce que tu vas amener, etc. Et par exemple, l'extrait que vous avez entendu sur j'étais trop proche des joueurs. C'est ce qu'on me reprochait. Moi, par exemple, je l'ai pas forcément entendu, mais c'est lui qui l'a amené. Bref, on sentait que son discours était bien en lui. Si des fois on n'avait pas vraiment compris, il répétait certains mots. Son œil était assuré, les mots étaient tranchants. Bref, il avait bien répété les choses. Après, vous savez, Greg est quelqu'un qui ne parle pas du vestiaire, hein, tout au long de la saison. Donc, on n'avait que des bruits de ci de là. Donc, on sentait qu'il y avait des petites choses qui n'allaient pas, notamment l'été dernier, pour Tata Roussanou. Il l'a redit lui-même aujourd'hui, hein, qu'il n'avait pas été consulté. Alors après, c'était presque depuis le mois de janvier, entre lui et moi, un running gag. Alors, t'en es où de ton contrat du 30 juin prochain? Alors, à chaque fois qu'on se voyait, il me répondait, bah, j'ai pas de nouvelles. Au départ, on sentait que c'était de l'humour, en fait. Oui, bon, ils vont bien venir à un moment donné, mais oui. On sentait au fil du temps que c'était un peu crispé. Pendant le confinement, on a beaucoup échangé à titre perso. Une ou deux fois, je lui demandais où c'en était. Il me disait, j'ai pas de nouvelles.
Oui, il était venu dans le team du gars aussi, hein, revenir sur
voilà,
des matchs de légende.
Mais déjà à ce moment-là, il avait la touche avec Dijon. Et puis, dernière chose personnelle.
Mais la vraie question, c'est que... est-ce que personne lui a jamais vraiment expliqué?
Le scandale, bah c'est ce qu'il dit à un moment donné. C'est ce qu'il dit.
Mais le scandale, c'est le manque de courage.
C'est qu'on lui parle pas en lui disant.
Mais c'est voilà, le manque de courage. Faut arrêter le manque de courage. Tu le prends à Grégory Coupé, tu fais une réunion, t'es pas obligé de t'étaler, t'es même pas obligé de donner une explication. Mais tu reçois le mec et tu lui dis non, on continuera pas.
Comme une légende voilà. Du club.
Mais non, mais à un moment ou un autre, que ce soit Juninho ou même Rudy Garcia. Et si t'as des trucs à lui reprocher, tu le gardes pas et tu lui dis pour telle raison, j'ai décidé de partir sur un autre projet, sur une autre façon de faire. Et puis voilà, et puis les choses sont simples, mais comment on peut en arriver à être aussi peu courageux? C'est moi, ça me troule le derrière ce genre de truc. Non mais c'est fou.
Putain, ah oui, non, mais c'est vrai
que une visioconférence en plus, hein.
Non, mais...
il a dit que la dernière chose qu'il avait fait quelque part vriller et pas regretter son choix, c'est que l'entretien avec l'entrevue avec Juninho, il nous a dit que c'était par visioconférence. Donc là, il a dit voilà, ça m'a totalement terminé sur. Alors il a parlé d'incompréhension et c'est vrai que le jour où il a signé à Dijon, j'avais sollicité une interview, il m'avait dit pas tout de suite et je sentais qu'il était amer, qu'il pouvait envoyer du lourd. 7 semaines plus tard, les mots sont choisis. Il y a toujours de l'incompréhension, mais on sent beaucoup de colère pour Grégory. Il a gagné tous les titres quand même à Lyon.
Évidemment, on laisse la parole à l'OL, hein, à Juninho, s'il veut nous donner sa version, s'il veut s'expliquer sur le sujet.
Il va appeler dans 2 secondes là. Je sais pas pourquoi.
Non, mais c'est possible. Ou il peut y avoir un communiqué que le service presse de l'OL nous fait parvenir pour avoir la position du club.
un pneumatique. Non, je me disais, Juninho, s'il veut vraiment un gardien qui s'entend pas avec le staff, il y a Ruffier est peut-être sur le marché. Donc là, il sera peinard. Personne sera copain avec lui. Il y aura pas de petite bouffe de barbecue. Ça, c'est tranquille. Non, mais c'est une bonne idée. Hein.
Est-ce que
les mecs, ils se font la gueule tous pour une bonne cohésion de groupe. C'est pas mal.
Je suis un peu l'avocat du diable, mais est-ce que l'OL était obligé de signifier quoi que ce soit à Grégory Coupé puisqu'il était en fin de contrat?
Non, ils auraient pu même l'insulter.
Quand t'as tout gagné à l'OL.
Ouais.
Non, moi, bien sûr.
Il a gagné 8 titres de champion, c'est une légende du club.
Diplomatie, un certain respect,
c'est pas rien quand même.
C'est l'essentiel. L'école américaine à la Trump.
Non, mais t'es en fin de contrat, on n'est pas obligé.
Je t'ai désactivé ton badge, tu peux plus rentrer au centre.
C'est ça. Ah bah écoute.
Tranquille, lui, il aurait désactivé le badge.
C'est ça, je
on a essayé de les désactiver, mais bon. Bon, donc pour toi, il n'y a rien de choquant, Francky.
Non, bien sûr. Je faisais l'avocat du diable. Bien sûr que par respect pour Greg et par rapport à ce qu'il a créé, il a fait pour le club, je pense à un coup de fil. C'est juste facile de dire, écoute, on continue pas avec toi. Comme l'a dit Christophe, c'est tout. Mais j'essaie de comprendre peut-être qu'il y avait une possibilité de ne rien lui dire et que ça se passe bien.
Non, tu l'emmènes à Tignes. Tu lui dis, ça te rappelle pas quelque chose. Tu le prépares gentiment. Tu lui fais une montée à Tignes. Tu prévois un hélicoptère et tu lui dis, si je te dis montre hélicoptère, tu penses à quoi?
Même Greg, il aurait rigolé.
Pour la référence, les gens qui l'ont pas, c'est 2006, ouais. Avant la Coupe du Monde, où il trouve qu'il y a des passes droits envers Fabien Barthez en équipe de France. Barthez qui ne monte pas le glacier, alors que lui doit le monter. Et donc il dit, dans ces cas-là, je me barre. Oh ouais.
Voilà. Et coach, il est parti avec sa voiture.
Hein. Oui, il est parti. Après, il est revenu quand même.
Il est revenu.
Coach, comment tu vois
par rapport au nombre de minutes que ça aurait pu coûter, entre guillemets, je trouve que c'est dommage.
Oui,
de ne pas avoir même une certaine politesse, une certaine élégance, comme l'a dit Christophe. Bon, mais tu peux changer, tu as envie de changer. Pourquoi? Ben, tu n'es pas obligé non plus de rentrer dans tous les détails. Tu lui dis, mais je crois qu'il y a aussi Flo Maurice qui a pas l'air très content non plus.
Oui.
Donc c'est vrai, c'est une intersaison difficile, mais,
oui, alors que Lyon,
mais peut-être qu'il va y avoir une saison extraordinaire.
Lyon qui revendique son institution, son respect des anciens, etc. Là, les départs de Maurice et Coupé, on sent bien que ça se fait pas en grande osmose.
Ça a été souvent raté.
Et vous en rajoutez,
ces derniers temps, voilà.
C'est souvent comme ça. Hein.
Ces derniers temps, il y a eu le capitaine.
Les histoires d'amour à l'OL se finissent souvent souvent Gonalon, mal. Alors après,
Gonalon exemple, aussi, ça s'est mal passé. Il y a eu plein de joueurs comme
la
ça.
La liste, il y en a beaucoup. À l'OL, on n'arrive pas vraiment à terminer correctement Clément Grenier,
ouais. Clément Grenier, merci.
D'autres, hein, ouais. Voilà. C'est vrai que bon.
C'est dommage. Hein,
Greg Coupé, c'est dommage.
Mais après,
c'est dommage. En tout cas, lui est très très heureux là où il est. Hein. Il est heureux comme un poisson dans l'eau. Il a signé 2 ans et voilà, comme il l'a dit, la formule aussi peut être aussi intact. J'ai quitté une usine à gaz pour un club famille avec un staff resserré. Là, oui, aussi, il retrouve des copains, hein, des copains du titre et de 2002.
Peggy Lundula, David Zinares.
Moi, je me dis que c'est peut-être. Ouais, alors, après, justement, non, comme le gars, c'est une légende.
Dans les temps modernes, il faut préciser quand on dit des choses comme ça.
Le Chaplin?
Non, usine à gaz. C'est-à-dire qu'il voulait dire que c'est une grosse
c'est
boîte.
Une grosse structure.
Une grosse structure.
Parce que tu crois qu'il fallait préciser ça?
Je pense que oui, il y a des gens qui sont complètement tordus.
Tu penses que c'était une chambre à air, les mecs?
Non, c'est un peu, voilà.
Alors, question, Edouard, est-ce que le fait que Coupé ait été remplacé par Christophe Revel, hein, depuis, est-ce que ça fragilise Anthony Lopez? Est-ce que ça ne montre pas que les dirigeants ne sont pas des grands fans d'Anthony Lopez?
Oh, je pense pas qu'il faille aller jusque là. J'ai pas forcément d'analyse comme ça.
Il y a beaucoup de clubs qui aimeraient avoir comme problème Anthony Lopez comme gardien, je pense. Hein. C'est pas un problème non plus, insoluble.
Il fait une saison moyenne.
En sachant que,
oui, c'est pour ça.
En sachant que c'est Grégory Coupé qui a tenu absolument à dire à Anthony Lopez qu'il s'en allait. Et on lui a posé la question, bien évidemment. Il a dit, il a eu un petit blanc. Puis après, il a dit, finalement, il n'était pas étonné. Parce que fatalement, dans le vestiaire, et puis des gardiens, c'est aussi une équipe dans l'équipe. Hein, un groupe resserré et ils se parlaient tous les jours et je pense que est-ce que tu as signé une prolongation, ça devait être aussi pas un running gang mais on devait en parler régulièrement et après les gens sont aussi dans le football et ils savent que quand on commence à pas en parler en janvier en février alors que la fin de race est au 30 juin
et la relation entre les deux gardiens
avec Tata Roussanou,
ouais.
Oui, ça aussi Coupé a eu du mal à le digérer, Edouard.
Bah oui, parce qu'il l'a, et puis il l'a dit, hein, franchement, c'est pas des affabulations de X, de Y. Il l'a dit, j'ai appris que Tataroussanou, on recrutait Cyprien Tataroussanou. Et puis vous vous souvenez de cette fameuse conférence de presse où il dit qu'il ne voulait pas être là pour être numéro 1, numéro 2, il était là pour être numéro 1. C'était au moment où il y avait les renégociations avec Anthony Lopez. Donc est-ce que c'est à ce moment-là que peut-être on a dit à Grégory Coupet, tu es un petit peu trop près d'Anthony Lopez? Parce qu'Anthony Lopez à ce moment-là a fait sa prolongation. Je ne sais pas, mais en tout cas.
Mais ça, est-ce qu'on peut reprocher à un entraîneur des gardiens d'être trop proche de son gardien? Ça, je m'adresse plutôt aux anciens joueurs.
Ouais, non, il peut être en position d'enjeu, tu veux dire. Ouais,
ouais, mais.
Très bien.
Non, mais c'est souvent assez fusionnel et compréhensible parce que c'est vrai que c'est une place à part et qu'ils vivent un moment à part. Ils s'entraînent souvent tout seuls, les gardiens.
Donc c'est des gens à part, les gardiens. Regarde Jean-Louis déjà.
Ouais, Jean-Louis est à part. Comme. Mais il est incompris même. Non, mais.
Donc moi, j'essaie de ne pas être trop pote avec Jean-Louis du coup.
Parce que pour faire gaffe. Ouais, pour voir qui est son entraîneur.
C'est très intéressant tout ça. Bon, Edouard, merci beaucoup.
Eh ben de rien, à la prochaine.
À très vite.
Ça passe toujours des choses à l'OL. Hein.
Bah oui, tout à fait.
On s'ennuie pas.
On n'a pas dit un mot sur la victoire 12-0 hier. Avec 4 buts de Memphis Depay, je me suis retenu d'en parler à Dugas.
Et 3 passes décisives.
Et moi, je suis contre qui ?
4 buts et 3 passes des Dugas pour Depay.
Contre qui ?
Une équipe de Port-Relais, une équipe de.
D'accord.
De Allez, envoie la pub. Valais Suisse.
Envoie la pub.
Vous niveau R2. R2 de le.
R2 ouais.
C'est quand même le record historique de l'OL. L'OL voilà. N'avait jamais.
Moi, je suis étonné que Ola s'est pas dit que c'est voilà. La plus belle victoire depuis le retour du confinement. C'est vrai qu'il y avait un score comme ça.
Le record avant, c'était 10-0.
Ouais. Ouais, moi aussi, hein, j'ai gagné 10-0 un jour, mais c'est contre l'Azerbaïdjan, je m'ai marqué.
Oui, c'est vrai, bravo. Ouais, bah c'est... Et sur ce match, et Depay et René Adélaïde ont joué. C'était prévu, là, un retour à ce moment-là pour
oui,
début juillet.
En tout cas,
ils sont pas
avant
en avance
le...
ou en retard.
Depay
non, moi, c'est 6 mois et demi. Depay est dans l'implication qu'il a eue hier soir et dans le physique, il est largement en avance, mais il est dans les 6 mois et demi de. Voilà, il s'est fait opérer au mois de décembre. La blessure, c'est le 15 décembre, 6 mois et demi après. Voilà, on est dans un délai, on va dire, normal pour un retour, même si pour Memphis, c'est vrai que c'est quand même. Il est en très, très grande forme hein, parce qu'il a mis des buts, il a fait des passes décisives, mais il était dans tous les bons coups pendant 90 minutes.
Coach, sur le temps de retour, là, c'était.
Ah ben, c'est Siké. Non, quand j'entends entre 6 et 8 mois, chaque fois je fais la même question, la même réflexion à cette question. C'est que pour moi, oui, tu peux retourner à l'entraînement, tu peux retourner sur un terrain de football, mais loin de tes 100%.
Ouais, ça
fait une bonne année.
Voilà, 100%, c'est entre 12 et 15 mois.
Il faut un an.
Ouais, voilà, il vient en avance, qu'il est en pleine bourre contre qui déjà ? Je vois plus. Et qui marque plein de buts, donc il est déjà en avance de paille.
Comment ?
Non, mais physiquement, hier, non,
mais du gars, tu peux intervenir.
Il est temps que je raccroche, moi, je te le dis.
Il est en avance sur son.
Mais
sur
je ne comprends plus rien ce qu'il nous dit là.
D'habitude, c'est 12 mois, lui. Au bout de 7 mois, il est déjà en pleine bourre.
Tu sens ton bras gauche ? Est-ce que tu sens ton bras gauche ? T'as une palpitation dans le cou ?
Alors, on va accueillir Mehdi qui est avec nous au 32-16, supporter de l'OL. Salut Mehdi.
Salut Jean-Louis, salut l'équipe.
Salut Mehdi. Est-ce qu'en tant que supporter de l'OL, t'es énervé par le sort qui a été réservé à Greg Coupet?
Bon, on va dire que je suis pas énervé. Je trouve ça dommage que, bon, voilà, Coupet, ça reste un gars qui est mythique. C'est un gars qui, c'est comme Bat, c'est des gars qui sont des historiques de Lyon. Lui, Bernard Lacombe, Johnny, Cachapa, Edmilson, c'est des gars qui ont gagné, en plus avec Lyon, qui ont été forts sur la scène européenne, tu vois, quand le foot français, quand Paris était dans le caniveau, quand Marseille, ils faisaient une année bonne, quand Paris jouait le maintien, bah, Lyon, ils étaient au sommet, ils essayaient de tenir le haut du foot français. Donc, le fait de pas l'avoir au moins dire, bon, écoute, on t'appelle, voilà, Garcia, on sait que c'est un homme avec ses réseaux, il travaille avec ses gars depuis 15 ans, depuis Le Mans, etc. Il dit, écoute, Greg, Garcia, enfin, voilà. Tu lui passes un coup de fil en lui disant voilà, on se met autour d'un team, c'est en confinement, on lui dit écoute, on veut pas te garder pour telle raison. Bah au moins après il est au courant du comment et du pourquoi. Et bon après moi c'est vrai que là à Lyon on sent le changement de virage et puis à un moment donné il faut raisonner par staff quoi. Je veux dire à un moment donné bah voilà où on dit Garcia et bah il fait son staff et on va pas se mentir finir septième Covid ou pas Covid c'est une énorme claque dans la tête parce que quand alors moi j'ai 31 balais, je suis le foot depuis 98, je suis supporter de Lyon depuis cette époque-là. Moi, ça m'emmerde de finir septième. C'est la pire année de Lyon depuis que je suis gosse, quoi. Depuis que je suis môme, quoi. Moi, Lyon à septième place, ça n'existe pas chez moi, quoi. Je veux dire, j'ai jamais vu ça. Donc, on peut me dire ce qu'on veut. Au moins, quand le coach il est là, on raisonne par table. Dans ce cas-là, tu dis, bon, bah, Garcia, t'as quartier libre. Mais là, on sent qu'on est dans un entre-deux. Garcia va finir la saison. On sait très bien qu'il y a de grandes chances pour qu'il finisse pas la saison de, à l'été prochain, à la même période. Johnny sera déjà travaillé sur un autre truc. Et puis, si on fait un bon choix, pourquoi pas intégrer des gens. Mais dans ce cas-là, c'est par staff qu'il faut raisonner. Parce que pendant longtemps, on a dit à Lyon que bah, le problème, c'était Baz, c'était les dinosaures, entre guillemets, de Lyon. Et que le coach, quand il vient, il n'a pas les coups des franges pour bosser, quoi. Donc, soit le coach, il vient et tu lui dis, t'as open bar, on te dit, t'as le droit de tant de membres de staff. Ou soit, dans ce cas-là, le coach, quand il vient, il faut pas lui dire, bah, tu viens qu'avec un adjoint et après, tu te démerdes. Et puis après, si, bah, après, c'est sûr que quand il vient et qu'il n'y a pas d'atome crochu entre Coupé, Johnny, Kachapa, etc., bah, c'est sûr qu'après, ça fout le bordel. Et après, on a des résultats dents de scie, quoi.
C'est quand même extraordinaire ce football avec la vision différente qu'on peut avoir. Et j'essaie toujours, moi, pour essayer de réfléchir du mieux possible, à me mettre à la place des gens. Je me mets à la place de supporter lyonnais. Donc, tu es en train de nous dire que tu n'es pas content de la saison de
oui.
Lyon ?
Il nous dit oui.
Roland, la saison de Lyon, tu les as vus les matchs ou pas?
Attends, je te parle pas des matchs. Les matchs, je les ai pas vus jusqu'au bout, puisqu'il en a manqué une dizaine. Je suis en train de réfléchir au moment où on se parle, si Lyon est en train de faire une saison pourrie. Lyon est en huitième de finale de la Champions League en ayant battu la Juve au match aller. Lyon est en finale de la Coupe de la Ligue. Lyon n'est pas en finale de la Coupe de France. Ils ont été éliminé, je crois, en quart ou en demi par le Paris Saint-Germain à Paris. Et ils sont septièmes, effectivement, avec tes deux meilleurs joueurs sur le plan offensif blessés, Depay et
Rennes Adélaïde. Avec 10 matchs à jouer.
Avec 30 points encore à distribuer. Sincèrement, je ne sais pas.
Roland, je te parlais de Ligue 1, je te parlais championnat, je te parlais pas
d'accord.
De
Ligue 1. Ah, d'accord,
je te parle de Ligue 1.
Championnat, c'est décevant, effectivement.
Championnat, quand tu vois les derniers matchs, en plus, Lyon, ils sont à un moment donné un peu revenus dans le game au début janvier, ils sont un peu revenus dans le match, ils n'étaient pas très loin de 3e, 4e place, et d'un coup, il y a eu une série de résultats, moi je me rappelle très bien, je vous appelais, que ce soit l'after, chez Momo, chez Duga, quand tu fais match nul contre Amiens, tu perds à Nice, tu bats pas Strasbourg derrière. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut prendre des points. Si t'es pas capable de perdre, si tu perds contre Paris les deux matchs, il y a pas de souci. Tu peux les perdre les deux matchs. T'as perdu au Vélodrome, t'as fait match nul au début de la saison à Saint-Étienne. Et aujourd'hui, quand tu vois Saint-Étienne, etc., c'était peut-être des points faciles à prendre quand tu regardes aujourd'hui le classement. Quand tu vois les matchs de Lyon, on en a parlé ensemble la dernière fois, Roland. Tu te rappelles le match de Nantes à la maison? Le bulgag de Moutoussami, là, quand Marcel on est d'accord, Roland, tu peux pas dire que Lyon, ils ont fait une bonne saison en Ligue 1 cette année, c'est pas possible.
Bon. Et en Ligue des Champions, rappelez-vous, ils passent, mais c'est même pas à l'arrache. C'est-à-dire que c'est au-delà d'un concours de circonstances, quoi. C'est
oui, vraiment... dans un groupe, oui.
Mais bon, ils ont battu la Juve quand même.
J'ai dit peut-être la semaine dernière, j'ai dit c'était un miracle et un exploit. Moi, j'ai dit, c'était un miracle. Ils ont fini une demi-heure par terre. Ils ont fini le cul par terre. Ils ont défendu. J'ai vu Denayer accroupi.
Non, mais on s'en souvient.
La bonne nouvelle, c'est que le mec a marqué. Il joue plus au club.
Oui, Souza est parti entre temps.
Et c'était ça le pire, c'était que c'était ça tout ça qui a été souvent décrié. Alors que moi, je trouve que c'est un joueur vaillant avec un peu peut-être des limites techniques, mais je trouve que le gars, il donnait tout sur le terrain. Oui. Si on avait eu 11 joueurs comme ça. Je peux vous dire, moi,
je n'aurais pas regardé le match. Hein.
Oui, je crois que
du gars de plus. Si t'as 11 joueurs dans l'équipe, moi, je me casse. Hein.
Ouais, regarde le match sans moi. Lyon serait pas 7e du championnat, Julien.
Comment?
Lyon, il serait pas 7e du championnat. Parce que
avec 11 joueurs?
On ne sait pas.
Ah non. Allez, Mehdi, merci. En tout cas, je vais donner ton avis. À bientôt.
Mais tu sais que c'est vrai que quand on fait des débats tous les jours sur les news que l'on apprend dans la presse.
Très intéressant d'ailleurs, les débats.
Oui, mais ça aussi, ça dénote et ça démontre aussi l'état quand même de notre football quand même. Quand tu vois qu'un club comme Lyon, quand t'as Florian Maurice, c'est un club référence, Lyon quand même, c'est on parlait des Girondins de Bordeaux tout à l'heure. T'as Florian Maurice qui part comme ça par la petite porte, les problèmes Grégory Coupé, là t'as à Bordeaux, t'as l'entraîneur qui va se barrer, qui annonce à ses joueurs qu'il va se barrer à 280 000 euros par mois. Le mec, s'il se barre, c'est que ça doit puer du côté de Bordeaux, mais ça doit sentir plus que les égouts. Je te le dis de suite. Non mais il se passe des choses dans les clubs et dans la gestion de tous ces clubs, mais le football marche sur la tête. C'est incroyable tout ce qui se passe.
Ça te donnera envie de continuer une saison en plus?
Mais non, mais c'est tout ça. C'est fou, genre, oui. C'est fou tout ce qu'on vit depuis 4 ans, tout ce qu'on entend et tout. C'est un truc.
Il va revenir.
C'est incroyable.
Il va revenir.
Il va revenir.
Duga.
Non, mais on ne pourra pas se passer. Je donne 2 ans. Tu crois?
Combien? Allez, 3 ans.
Oh, t'es sympa, je donne 2 mois, moi. Je vais craquer, là.
Allez, on verra. Dans un instant, en tout cas, Mitroglou, un des débats mythiques dans l'histoire de Team Nuga. C'est dans un instant, sachez que ça joue en Angleterre, 0-0 entre Sheffield et Tottenham. On suit cette rencontre. Et puis, il y a plein d'infos encore à commenter dans la dernière demi-heure de Team Nuga, tout de suite.
RMC, 18h20.
Team Nuga.
Jean-Louis Tour.
Christophe Dugarry.
Pardon, excusez-moi, j'ai pas appuyé sur le bouton rouge. Pardon, c'est les amis. Grave. Nous sommes de retour dans le Team Dugas. Roland Courbis, Julien Cazard, Franck Leboeuf, mon Jean-Louis. Nous allons parler de Mitroglou qui nous abatte.
Non, tu vas parler de Mitroglou.
Non, mais ça va manquer. Ça va manquer. Donc tout le monde va en parler, effectivement. Et puis il y aura le blind test, 32-16, pour vous inscrire. On va également commenter 2-3 actus aujourd'hui. Christophe Galtier énervé. L'affaire de la sextape qui connaît un nouveau volet judiciaire. Tout ça après donc ce débat mythique jusqu'à la fin de la semaine prochaine. On revient sur des débats importants qui ont marqué ces 4 années de Team Duga. Et donc là, direction le mois de septembre 2017, alors que Sheffield vient d'ouvrir le score contre Tottenham. Je ne sais pas pourquoi Franck Leboeuf lève les bras.
Parce que tous les clubs de londoniens, quand tu as joué à Chelsea, tu ne les aimes pas.
Ah bon, bon ah, Tottenham-Chelsea, il n'y a pas de rivalité.
Si, il y a toujours une rivalité.
Ah bon,
là, moi, j'ai un des meilleurs potes, il est supporter des Spurs, donc là, dans 3 secondes, je lui envoie un texto. Et
d'accord. C'est juste un délire de la haine de l'autre.
Ouais, c'est ça.
Ça me va alors.
Donc 1-0 pour Sheffield face à Tottenham.
Ça va pas loin.
Septembre 2017, donc, l'OM a passé tout l'été à chercher un grand attaquant. Donc, le grand attaquant qui serait le leader du Champions Project. Et là, arrive donc de l'Olympiakos, de Benfica, pardon, il était à l'Olympiakos juste avant. Kostas Mitroglou et du gars, dès le début, t'as senti que ça le ferait pas.
Bah écoute, Mitroglou, c'est juste pas possible.
Oh, le manqué de Kostas Mitroglou !
Je trouve qu'il a des qualités très, 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 très limitées. Techniquement, tout est compliqué.
Le manqué énorme, le but vide !
Il n'y a aucune vitesse, il n'y a aucun contrôle orienté. La faiblesse technique de ce garçon.
La frappe de Mitroglou, elle est contrée !
Comment ce garçon a pu marquer 15 ou 20 buts dans une saison ?
Eh oui, il a manqué, Mitroglou !
C'est Brandao en moins bon.
Mais c'est aussi moi je l'appelle Brandaglou, moi.
L'assassinat.
C'est Brandaglou.
Tout ça est vrai.
Ça va être compliqué de faire un débat où on n'est pas d'accord. Hein.
Non, mais on va voir, c'est pas grave. On revient sur un débat mythique. Ah oui, tu vois, après, voilà. Alors, sachez qu'Harry Kane vient d'égaliser. Désolé, Francky, mais un partout, donc entre Sheffield et Tottenham. Donc, à l'époque, Mitroglou arrive à Marseille. Et du gars, il t'inspire pas footballistiquement. Pour être gentil.
Oui, ce garçon a des stats avant d'arriver à Marseille.
Ouais.
Donc
il est resté sur 2 saisons à plus de 25 buts.
Exactement, 25 et 27 buts. Voilà. Même 3 saisons avec l'Olympiakos juste avant, où il en a 19 en 34 matchs. Donc ce garçon a marqué des buts, a su marquer des buts. Je me demande comment un garçon avec aussi peu de qualité technique peut jouer en Ligue 1. J'ai rarement vu un garçon aussi faible techniquement.
Vrai, et je me dis, est-ce qu'il y a déjà eu plus nul?
Et je me dis,
à l'OM, mais vraiment.
Non, mais dans sa façon de courir, dans sa façon de contrôler le ballon, dans sa façon de se déplacer. Et le truc qui m'a le plus choqué, tu vois, par exemple, c'est son manque de combativité. Parce que je m'attendais justement à un déménageur, tu vois, un mec qui rentrait dans le lard, un peu à la Brandao, effectivement, qui aussi avait des qualités techniques assez, assez moyennes. Mais putain, le mec, il était dans le combat, il était dans le pressing, il était dans l'agressivité. C'était, tu vois, il se battait pour sauter à la tête, pour garder les ballons en poitrine, il faisait des déviations. Bon, il y avait un semblant de quelque chose. Ça me plaisait pas, mais il y avait un semblant de quelque chose. Mitroglou, j'ai eu peur, j'ai été effrayé. Chaque fois que je voyais toucher le ballon, je me mettais à la place du ballon et je lui disais aïe, aïe, oui, c'est pas possible.
A priori, le ballon risquait rien parce qu'il fallait qu'il le touche déjà.
Ses coéquipiers, impossible de le trouver, il se rendait jamais disponible. Donc, après, on a eu des auditeurs qui m'ont dit Dugas, t'es trop dur, il est arrivé blessé, il va retrouver la forme. Alors, il a peut-être retrouvé la forme, mais les boîtes à chaussures, il les a pas enlevées. Mais malgré tout, ça laisse beaucoup d'espoir pour les joueurs de foot qui ont parfois les pieds un peu pour qui c'est un petit peu compliqué. Et on peut arriver à jouer en Ligue 1. Il y a de la place pour tout le monde, et c'est pas plus mal comme ça. C'est un espoir pour beaucoup de joueurs qui ont laissé la technique au vestiaire. C'est pas très grave. Mais là, moi, j'ai rarement vu. Alors dans le temps où il a joué du côté de l'Olympique de Marseille. Un garçon aussi proposer aussi peu de choses dans le football.
Moi, au début, je vais pas te mentir, j'ai cru que c'était un canular, que c'était Kadmirad. Parce que, non mais, j'ai vu ses caméras. Comme il est noir. Souvent à Marseille,
le baron noir.
Et que pareil.
Jean-Michel à peu près.
Ouais, c'était un peu Jean-Michel à peu près. Alors qu'il joue au foot, quoi.
Non, mais sans rire. Moi, je me suis toujours battu contre Christophe qui pouvait dire qu'un joueur était nul en lui disant tu peux pas dire ça, tu vas arriver à ce niveau-là. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, au fil des mois...
Désolé, mais t'as raison, Francky, sur le fond, t'as raison, mais je suis désolé. Mais
j'arrivais même plus à le défendre, c'est terrible. C'est le seul joueur qui a... au moins, tu t'es, quoi.
Honnêtement, non, mais c'est vrai, quand on y réfléchit, j'essaie de chercher si on a vu plus nul à l'OM, parce que là, c'est l'OM, quand même, c'est pas, tu vois, c'est pas le FC Tourcoing. Oui. Avec tout le respect qu'on peut avoir pour le FC Tourcoing.
Il existe le FC Tourcoing.
Il y a un truc, quand même, à l'époque, pourquoi ça avait fait débat aussi du gars, c'est parce que les supporters marseillais avaient envie de le défendre, parce que c'était un joueur de l'OM, coûte que coûte.
Et pognon aussi, ça coûte cher. Il y a quoi, 15 millions, je crois, 20 millions.
Ouais. Mais en plus de ça, c'est quand même dans un endroit, bon, évidemment, qu'on connaît bien tous, moi avec vous. Mais qui sont au courant, les supporters et les passionnés de football dans la région, ce qu'est le numéro 9. Tu regardes
la
liste qu'il peut y avoir sur les 20, on va pas remonter plus loin, mais enfin, ça, même 30 avec les papins et compagnie,
Anderson.
Bon, bref, et c'est vrai que dans cette période-là, c'est un joueur qui se met sur une liste, mais une liste inquiétante des erreurs et des horreurs. Bon, il y a une différence, mais là, des erreurs, on en fait tous. Mais cette liste-là dont fait partie Mitroglou, c'est vrai qu'elle est tout simplement anormale et en même temps inquiétante. Alors, la seule possibilité pour moi.
Ah oui, là, vas-y, Roland, parce qu'il m'en fout une. Vas-y.
Il faut quand même.
Mais ça m'intéresse, non, mais c'est vrai.
Essayer de trouver.
T'as raison.
On ne peut pas l'attacher dans une cave.
T'as raison.
Si tu veux, ce joueur-là, si en plus de ses qualités moyennes, tu l'utilises en poste de numéro 9 dans une organisation où il n'a pas un petit copain à côté, tu vois ce que je veux dire, c'est aussi, même si Germain est un bon joueur, quand tu mets Germain dans un poste de numéro 9 tout seul, à la limite dans cette période-là, tu te disais si ça peut marcher ces joueurs-là, ben essaye au moins, je dis pas que ça, j'ai pas la prétention de dire que ça aurait marché, mais au moins essaye de mettre un duo, parce que dans cette organisation là, par exemple, si la saison prochaine il est dans l'effectif de l'Olympique de Marseille, que tu veux l'utiliser, eh ben essaye-le en duo avec Benedetto et on verra ce qui se passera. Le football, souvent il est bizarre, tu auras un gaucher, un droitier, un gars qui a des qualités.
Ah, tu arrives à trouver le bon pied de Mitroglou, toi.
Ouais, quand même. Bon,
faut aller sur Wikipédia.
Un jour, je ne sais plus avec qui, on discutait et il est en train de me dire que Mitroglou était droitier. Alors, si
Mitroglou. Non, moi, il est gauche.
Il est gauche.
Il n'est pas gaucher.
au moins ça, qu'on arrive au moins à tomber d'accord là-dessus.
Ce dont parlait Christophe, s'il a eu des stats avant d'arriver à l'OM, c'est qu'il a dû être servi par certains joueurs qui lui ont quand même mis des
caviar. Oui,
donc c'est vrai que ça peut peut-être l'aider.
Au moins, essayons quelque chose. Dans cette organisation-là, qui est une organisation compliquée, pour moi, le 4-3-3, la plus compliquée que je connaisse. Mais le gars, vraiment, pour jouer, il faut que ce soit un Drogba pour jouer dans cette organisation. Ton coéquipier à droite, il est à 20 mètres. Ton coéquipier à gauche, il est à 20 mètres. Celui de derrière, ben, tu sais pas trop où il est. Il faut vraiment être très fort et très complet. Mettre Mitroglou à l'Olympique de Marseille, dans un endroit où le numéro 9, on sait ce que c'est dans le football. Seul dans un poste à axial. Ah ben c'est vraiment là tu
le dernier c'est peut-être Gignac qui a réussi dans ce style là.
Oui, c'est ça.
Mais sinon après t'as eu Brandao, Fletcher, Mitroglou, t'as quand même une belle série de bons balais.
Alors sachant qu'il est de retour, hein, Mitroglou. Alors faut voir qu'ils arrivent à se débarrasser de lui. Ben,
c'est un peu le Doria de l'attaque.
Il y a pas Niang.
Mamadou
Niang
qui a réussi.
Il jouait pas seul devant aussi.
Non, pas souvent.
Non mais Gignac, lui, il arrivait, tu vois, à se bagarrer un peu seul.
Ouais.
Sinon, c'est dur. Hein.
À votre avis, salaire annuel brut de Mitroglou?
Jean-Louis, 5 000, c'est bon. On s'est fait assez mal aujourd'hui. C'est
300 000.
4 millions, c'est. 4 millions par an.
Mais non.
Brut.
Mais qui lui a filé ça? C'est pas un Mitroglou. Mais c'est pas sur Mitroglou qu'il faut taper.
Tu peux avoir le même agent.
C'est le mec qui lui file le pognon.
Tu sais que j'insiste souvent quand on ne parle que du transfert et pas du salaire. Là, j'insiste.
Sur le salaire.
Non, et sur le transfert.
Ouais,
parce que quand en plus, on te dit, Mais dans le montant du transfert, qui est, je sais plus si c'est 30 ou 25.
Ah non, bref, c'est moins quand même, je
pense. C'est 15-20, j'irais.
Eh non, mais divisé par deux. Il t'appartient qu'à moitié.
Ah oui, c'est vrai, c'est vrai.
T'as qu'une moitié de Mitroglou. T'as Mitro ou t'as Glou, tu sais pas.
Oui, ce qui explique deux, trois trucs, en fait. T'as que la moitié. Bah,
je moi, je veux voir l'autre moitié
gauche. T'as le gauche, mais t'as pas le.
C'est pour ça qu'il a moitié nul aussi.
Ouais.
Imagine quand tu seras complètement nul. Ça va être génial.
Bon, voilà pour Mitroglou. Alors, sachez que finalement, Tottenham n'a pas égalisé.
Non,
alors,
c'est assez incroyable. J'ai téléphoné à l'arbitre, en fait, j'avais pas voulu. Mais c'est l'honte.
Non, mais c'est incroyable. Juste pour raconter l'action pour ceux qui n'ont pas vu. Lucas part dans un espèce de rush où il élimine deux, trois joueurs. Et au moment où il va pour tomber, il est au ras du sol. Là, il y a un défenseur de Sheffield qui shoote dans le ballon. Et ça rebondit sur l'épaule de Lucas, mais à bout portant, quoi. Il y a 30 centimètres d'écart, quoi.
Sachant que s'il y avait eu faute pour Lucas, c'était pas scandaleux non plus.
Voilà. À l'arrivée, il n'y a pas faute. Et donc, le ballon arrive pour Kane, qui fait un crochet et qui marque. Et l'arbitre dit main. Ouais. Alors que là, quand même.
Alors, le truc, c'est que, parce que je suis un peu sur Internet pour voir un petit peu ce qui se passe. En fait, l'arbitre, la question, c'est est-ce que s'il n'avait pas touché le bras de Lucas, le ballon serait allé sur Kane? Imagine la question.
Ouais. De quoi?
Est-ce que si le ballon, si le mec qui frappe sous Lucas, sur la main, à 30 centimètres de Lucas, hein, donc Lucas peut rien faire. Oui. Si le ballon n'avait pas touché la main de Lucas, mais son dos, est-ce que le ballon serait allé sur Kane qui après peut marquer le but?
Je sais pas, mais pourquoi il a
fait vraiment des scientifiques.
Parce que c'est pour ça qu'il l'a refusé. C'est qu'il dit que la main, elle a été importante. Donc
il a déjà fait une conf de presse, le mec, pour le match.
Non, mais c'est.
Je crois que c'est plutôt la règle qui dit que quand il y a un but marqué, il ne doit y avoir aucun contact avec la main au préalable, quel que soit le joueur ou l'action. Et là, il considère qu'il y a une main, même si elle est totalement importante.
Vous savez que la règle sur la main change là où ça va être en dessous du t-shirt. Donc maintenant, si t'as un t-shirt plus ou moins court, on fait comment?
Manche longue. Moi, j'ai les manches longues. Des manches longues, des gants, tu dunks.
Ça bien. Bien rigolé.
Alors, quelques infos encore à vous donner après ce débat Mitroglou magnifique. L'affaire de la sextape, donc. Ah. La justice, le parquet de Versailles, a réclamé un procès pour cette affaire. Donc, voilà, pour complicité de tentative de chantage à l'encontre de Karim Benzema. Donc, ça va aller encore plus loin. Alors qu'on sait que pendant longtemps, l'enquête avait été remise en question. Il y a eu une plainte en nullité qui avait été formulée.
Pour Mitroglou, la plainte en nullité?
Finalement, la Cour de cassation a validé l'enquête en décembre 2019. Donc, il devrait y avoir procès. En revanche, non-lieu requis, pour Djibril Cissé, qui avait été mis en examen pour complicité. Voilà, les suites juridiques de cette affaire.
Donc, quand Karim sera entraîneur, il va finir par terminer cette affaire.
Peut-être, oui, effectivement. Sachez que sur le plan du mercato, Lille a officialisé la signature du jeune Isaac Liadji en provenance de l'OM. Donc, lui qui était annoncé comme une pépite du centre de formation marseillais. Il va donc s'engager à Lille. À Lille où Christophe Galtier n'est pas content, puisqu'il déplore le départ de Loïc Rémy, qui a 33 ans, était en fin de contrat. Lille comptait lui proposer une prolongation. Visiblement, tout était prévu pour qu'il reste. Et finalement, il s'est engagé avec Benevento, club promu en Serie A, entraîné par Pippo Inzaghi. Et donc Galtier a dit à la Voix du Nord: quand j'ai appris que Loïc était susceptible de partir alors que tout semblait prêt pour qu'il reste, j'ai été surpris. Et après dimanche, j'ai même ressenti une colère froide. Il dit: Loïc, ça fait partie des joueurs dont j'ai besoin, à l'image de José Fonte derrière, de Benjamin André au milieu, de Jérémy Pied. Dans le vestiaire, ils sont importants. Eux, ils ne tremblent pas quand ça va mal, à l'inverse de ce qui s'est passé au club il y a 2 ans et demi, quand ça tremblait de tous les côtés. En plus, il a mis quand même 14 buts avec nous, ça se passait très bien, et il a permis l'épanouissement de jeunes joueurs autour de lui comme Pépé, Léao ou Osimhen. Donc voilà, les départs d'Osimhen et Gabriel étaient prévus par le club, celui de Rémy un peu moins.
Quand il n'est pas content, il n'est pas content après qui? Après le joueur ou après son club?
Je pense des deux. Il est en colère.
En même temps, voilà. Rémy, il a quel âge? Il a
33 ans.
On lui offre un contrat de 3 ans, je crois. Il me semble, on lui offre un contrat de 3 ans, donc tu peux comprendre que le joueur, il se mette un peu à l'abri.
Non, après, oui. Et Lille offre 2 ans. Évidemment, mais ce que dit Christophe, certainement, c'est que dans chaque ligne, il y a un gars expérimenté.
Ouais, c'est clair.
Rémy, en plus de ça, tu as aucun problème, comme il sait qu'il est souvent avec le kiné à l'infirmerie, donc que tu fasses jouer que des petites parties de match, ça lui va très bien. Ça lui permet aussi de ne pas se blesser, d'être efficace et de donner l'exemple avec une certaine expérience. C'est sûr que ce profil-là, de A à Z, ça va être difficile de le retrouver. Mais d'un autre côté, qui s'inquiète pas, il y a toute une liste chez Campos.
Campos, oui,
il y aura ce qu'il faut là où il faut.
Mitroglou, ce que je trouve étonnant, Mitroglou déjà, il va être prêté, ça va être une bonne pioche. Tu vois pas qu'il mettra 30 buts avec
Galtier, par exemple. Non, même si c'est pas
le même poste.
Si. Disons que c'est pas le même profil. Non, il veut quand même quelqu'un d'expérimenté.
Il veut un mec qui veut. Ouais. Il agit pour le moment. Après, il peut évoluer d'après ce que je
un ailier.
Mais c'est pas ça dommage pour Rémi.
Profil Tovin, un gars gaucher qui joue plutôt à droite qu'à gauche.
Quand t'as mis toute ta carrière, moi ça me fait toujours, je trouve ça toujours bizarre quand t'as toute ta carrière, t'as du mal à te stabiliser, que pour une fois, t'as un club. Enfin, tu vois, tu te dis. Merde quoi, t'as pas envie à un moment donné de te poser. Quand même, il fait beau à Lille.
Non mais c'est tout le problème d'un choix de carrière ou
tu fais
des choix et quand il fait un bon choix dans la Marseille, ça se passe bien. À Chelsea, ça s'est plutôt bien passé. C'est après que ça part en vrille un petit peu.
Oui, mais là, c'est une super aventure Lille, franchement.
Moi, je suis bien d'accord avec toi. Seul dans la semaine à prolonger un contrat quand il a déjà 34 ans. Donc le mec, c'est ce qu'il nous dit, Franck. Donc de 34 à 37 ans, quand tu es attaquant en plus, c'est sincèrement, c'est énorme pour terminer une carrière.
Ouais. C'est où
à Marseille, on prolonge jusqu'à 39.
Géographiquement,
c'est pas le seul, mais bon, c'est peut-être une mode.
Ouais. Dans la ville de Benevent.
C'est dans le sud, c'est au soleil, c'est au bord de l'eau, c'est.
Là, je pourrais faire appel à Duga et ses compétences. Oui,
après, il y a un truc, c'est qu'en Italie.
Ils sont limités.
En Italie. Je peux taper sur Google, c'est pas loin de Naples.
Tu vois, entre Lille et Naples, 3 ans.
Non, mais en Italie, ils ont la tradition de respecter vachement l'âge. C'est-à-dire que. Même chez les attaquants. C'est-à-dire que tu peux être vieux, tu vois, regarde Quagliarella.
Méry a rebondi à la Fiorentina.
Mais même chez les neufs, quoi, tu vois, c'est. Il n'y a pas le côté t'es trop vieux. Au contraire, il y a un côté t'es expérimenté, ça, ils aiment bien. Donc.
Et puis dernière info du gars pour ta retraite hein, pour l'année prochaine, il va falloir que tu prennes un abonnement pour le championnat suédois puisque Zlatan Ibrahimovic devrait retourner en Suède pour finir sa carrière. Et je sais que ça fait partie de tes joueurs fétiches.
Quel club pour que je prenne un abonnement parce que ça va être
non, mais bien sûr. Il va aller vérifier comment ça se passe avec sa statue.
Oui.
À Malmö.
Alors voilà, la statue à Malmö, elle a été déboulonnée depuis parce qu'il a pris des parts dans le club rival d'Amarby. Il a 25% des parts du club et visiblement, c'est là-bas qu'il devrait rebondir. Donc, lui qui a mis 4 buts en 11 matchs au Milan.
C'est
voilà.
Pas mal.
Effectivement.
Il y a un ou deux pénaltys, je crois, non?
Oui. Mais oui.
Non, mais c'est très bien. Bah, à son âge, c'est très bien. Ouais.
Voilà, 38 ans. Voilà pour les infos du jour. On revient dans une seconde pour le blind test, bien sûr. Et puis, il y a toujours 1-0 entre Sheffield et Tottenham, ce match.
À partout.
Non, 1-0. Le but a été refusé.
Ah,
à Kane tout à l'heure.
Il a pas compris les explications.
Sinon, ça joue sur les autres pelouses. Osasuna mène 1-0 à Eibar. L'Espagnol Barcelone mène 1-0 sur le terrain de la Real Sociedad. Et puis en Italie, 0-0 entre l'Atalanta de Bergame et Naples. Le blind test, à tout de suite.
RMC, 18h-20h.
Tim Duga.
Jean-Louis Tour.
Christophe Dugarry.
Allez les amis, c'est le moment du blind test. Roland Courbis, Julien Cazard, Franck Leboeuf et Jean-Louis Tour sont bien.
Est-ce que tu as meuté toute la famille, Duga?
Pas encore.
Très bien. Ouais. Alors, évidemment, le RMC Football Show arrive juste après 20h avec les matchs européens et notamment ce Manchester City-Liverpool ce soir, 21h15. Donc, bien sûr,
il y aura les applaudissements de l'équipe de Manchester City pour l'entrée de Liverpool ou pas?
La haie d'honneur.
Je crois que Guardiola l'a demandé, je crois.
Oui, exactement. Il y aura ça, Francky.
Bien, j'aime bien. Voilà. Classe.
Le blind test, tout de suite. Équipe champion du monde 98. Duga Leboeuf. Merde. Équipe Cazard Courbis.
Aïe.
J'aime ces associations.
On a pris une tôle.
Avec vous, Thomas également. Bonsoir, Thomas.
Salut, Team Duga. Salut, Franck. Bon, Roland. Salut à tout le monde.
Thomas, tu fais le métier que Duga aurait adoré faire.
Je sais pas.
Qu'est-ce qu'il a dit?
Des chômeurs. Tu fais quoi, rentier?
Mais non, il est fonctionnaire de police.
Ah oui, j'aurais bien aimé. Ouais.
Je t'imagine bien du gars avec le
cheveux,
le serre-tête et
avec la casquette.
Je te jure, t'aurais
la matraque surtout, la matraque. Oui,
entendu.
N'empêche que justement.
Plus les menottes du gars.
Oui, aussi, bien sûr.
Figure-toi que tout à l'heure, je me suis fait arrêter par deux inspecteurs de police en voiture qui étaient fans de Strasbourg et de Marseille. Ah. Et pourtant, j'étais quand même bourré. J'avais pris un couloir de bus et ils m'ont laissé partir. Fan de l'OM hein, et de Strasbourg. Donc, j'ai dit respect. Tu vois,
délit de fuite.
Ah ouais.
Ils sont sympas, les mecs. Hein.
Thomas, tu veux faire équipe avec qui?
Avec Julien Cazard, évidemment.
Eh ben oui, je vois pour l'accent.
J'espère que je suis aussi en forme qu'hier.
Obligé.
Ah, mais t'es de Toulouse aussi, mais c'est incroyable.
Ben, bien sûr.
Il n'y a que des Toulousains qui font le blind test, c'est incroyable.
Écoute.
Issa est là également, salut Issa.
Bonsoir à tous.
Tu es avec Duga et Francky.
Salut Issa.
Désolé.
Ok, bon, on prend ce qu'il y a.
Il est dans une mauvaise soirée, Issa.
C'est Pierre Issa, le Sud-Africain.
C'est un supporter à Manchester City, donc il y souffre là. Ce soir, il est en souffrance là.
Allez, merci,
on y va.
On va essayer de te rattraper. Ouais.
On y va pour le blind test.
Qu'est-ce qu'il a dit?
Une chanson. Ah, vous trouvez l'interprète, c'est parti.
Le Belge là.
Oui.
Stromae. Bien joué.
Stromae.
1-0. Super,
Stromae. Bon, Francky, il ne faut pas dire le Belge, il faut dire son nom.
Et oui mais j'essaie de dire. J'ai dit le Belge et Issa, hop.
Oui, mais t'aurais pu dire. J'ai encore fait dire Annie Cordy, donc.
1-0. Qui est le meilleur buteur de la sélection belge?
Lukaku,
Julien. Et oui, Julien Cazard.
Et ouais, il n'y a pas de décalage, frérot.
Et ouais, il est là.
C'est ça qui fait la diff.
Coach, il n'y a pas de décalage non plus.
Celle-là, je la savais.
Bien sûr. Un partout. Nouvelle chanson.
Paula Abdul.
Qui? Paula Abdul. Il est là, Issa, bien sûr. Imagine Dragon.
Ah ouais, bravo.
Issa, il est là. Hein.
Bravo, Issa.
C'est bien.
Personne n'a.
Parce que Duga et Franti ont trouvé le
Shazam. Hein, d'accord. Hein. Bon, personne n'a Shazam. Hein.
Ah, ça va. Pas aller aussi vite quand même. C'est pas. Non, plus, Shazam, ça passe pas bien avec le téléphone.
Non.
Je m'étonnerais. Imagine Dragon. Quelle sélection est surnommée les Dragons?
La Belgique.
Non.
C'est
non.
Rouge.
Non, les Dragons. Alors, c'est le Portugal.
L'Irlande.
Non, c'est le Japon.
Non.
L'Asiatique. Non.
La Corée. Non, le Pays de Galles.
Oui, le Pays de Galles.
Le Pays de Galles.
Bien sûr. Ça fait 3-1. On peut enchaîner avec une nouvelle chanson.
Passe à la mer, Carlo Giro.
Oh, ah oui, c'est Thomas.
Bravo.
Ah, ben, il fallait que les Toulouse, ils sont là. Hein.
Thomas et Issa, vous êtes excellents. Hein.
Ah, c'est bon.
Ben, Toulouse.
Et, oui. Et le football,
Carlo Giro
et
Pasti.
Quand même. Ils sont bons au blind test, mais au ballon, par contre.
C'est autre chose. C'est un concept, le foot à Toulouse.
Ils ont quand même plus eu de gens dans le top 50 que dans le ballon d'or, quand même, à Toulouse.
Oui.
Pour citer un humoriste, Julien Cazard, le football à Toulouse, c'est comme la Gay Pride à Edouard. C'est un concept.
C'est bien, Thomas. Tu cites les grands auteurs.
Ah,
très bien.
T'as des belles références.
La question foot, il y a 3-2 dans ce match, sorti en 2004 face à la mer. Date de ce formidable Euro 2004.
Ouais.
Deux gardiens ont fini dans l'équipe type de la compétition. Donnez-moi le nom d'un des deux.
Barthez, donc.
Barthez.
Non.
Coupé.
Non.
Letizy.
Non, mais pas français.
Castaneda.
Rui Patricio. Non.
Ah non. Casillas?
Non.
Bouffon.
Qui a gagné la compétition?
C'est la Grèce.
Vous l'avez pas.
Rastamopoulos.
Mitroglou.
Alors, cherchez plutôt le gardien
du Portugal,
d'une autre sélection qui a joué longtemps à Chelsea.
Tchèque.
Oui, Tchèque.
Il s'appelle pas Tchèque, il s'appelle Tchèche.
Parce que toi, tu parles Tchèque dans le texte.
Trois personnes. Dernière chanson pour vous départager. Alors?
Sign of Silence, Simon Garfunkel.
C'est quoi ça?
Voilà, c'est.
Ah, c'est un truc de John, ça.
Seven Nation Army.
C'est sorti en 2003.
Pas non plus
très jeune. Non,
bah.
T'es français,
Et ça fout, il aime.
Non.
Raphaël.
Kyo.
Didier Kyo. C'est Didier Kyo. Président de la Ligue.
On a gagné.
C'est pas Didier Kyo. On fait la question foot quand même, les victoires des champions du monde.
Non, on est
4-3.
Mais si on gagne, nous.
Bon, si vous voulez, mais.
Égalité.
Bon, d'accord. Mais après, il faut refaire une chanson et puis on est là jusqu'au bout de la nuit.
Non, on va faire un match nul, c'est pas grave, on prend un point chacun.
Oui, d'accord, on va faire ça. Donnez-moi un des buteurs de la finale de 2003 en Ligue des Champions.
Caca.
De la 2003, non. Lampard.
Non.
Non.
Ronaldo.
Non.
Non.
Messi.
Non.
Torres.
Eto.
Non. 2003, c'est entre le Milan et la Juve.
Milan et la Juve, il y avait
Caca.
Non.
Non, attaquant argentin.
Trezeguet.
J'ai peur que ce soit long.
Nedved.
Ça peut être long.
Non,
une finale qui s'est départagée au tir au but.
Crespo.
Inzaghi.
Ouais.
Mon Dieu.
Oh, vous êtes une voile, j'annule. Victoire de Francky et du gars. Et il n'y avait pas, il y a eu 0-0. Merci.
Et il est fier de lui.
J'ai jamais dit
un t-shirt.
Mais j'excède quand t'as
perdu. Mais virez-le.
Ah bah oui, mais vous réfléchissez pas. Vous réfléchissez pas, vous
êtes bien beau et ça tombe de gagner.
Non, mais vous êtes incroyable.
Et tu crois qu'on serait dans cette émission sinon?
Merci tout le monde. Julien Cazard, coach Courbis, Franck Leboeuf, du gars. Bon week-end. Repose-toi bien. À lundi pour la dernière semaine. capitaine de Team Duga à 18h. Demain, Jérôme Roten, capitaine Larqué Roten Régal à 18h. Et dans une seconde, le RMC Football Show.
RMC, 18h-20h, Team Duga.